et bienvenue sur Gameblog pour ce nouveau podcast de la semaine, n'est-ce pas, sur l'actualité vidéoludique intense et jikma.
C'est vrai.
Le numéro 498, le bien nommé, bientôt les 500. Attention, préparez-vous.
On est prêts, nous, pour le 500?
Préparez-vous à faire tiep.
Préparez-vous à un podcast exactement comme celui que vous avez aujourd'hui.
Non, pas du tout, vous allez voir, ça va être extraordinairement incroyable. Surtout avec Romain Mahut, justement, qui est là en train de parler.
Bonjour.
Pour dire pas grand-chose.
Bonjour.
Thomas P.
Exact.
Le très
c'est comme ça que tu m'appelles.
Bronzé, rouge, je sais pas.
Non, pas
roux,
encore.
Roux ou rouge?
Pas encore quand on reviendra de Los Angeles.
Voilà, exactement.
Où je serai cramé.
Et Camille, salut. À mes côtés, n'est-ce pas, qui est très jetlagué, qui revient de Los Angeles pour parler de plein de choses incroyables.
Qui est blanc pour le coup.
C'est ouais. Vrai? Non, non, il est plus bronzé que d'habitude.
Mais Camille, mais quand il va dans un endroit ensoleillé, c'est comme les grand-mères asiatiques. Ah, non, que non, tu vois, là, genre, il met full bodysuit avec juste les lunettes de soleil.
Perdu. Et bien alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce podcast 498?
Bah, tu vas nous le dire, je crois.
Tu crois?
C'est toi qui as le.
Ok, je fais le sommaire, c'est moi qui ai la puissance et le pouvoir magique.
J'ai pas dit ça.
Quant à Poufy, qui rigole sous cap comme un fourbe. Alors, évidemment, il y aura le win, le fail, hein, comme d'hab. Vous connaissez la chose. Il y a 10 ans sur Gameblog, que s'est-il passé? On va le savoir dans quelques minutes. Et les trois thèmes habituels, oui, il y en a trois cette semaine.
Eh oui.
Avec un Borderlands 3 dont Camille va parler, évidemment, puisqu'il a été le voir à Los Angeles, il y a joué pendant quelques heures. Il va tout nous expliquer, n'est-ce pas? Le deuxième thème, ce sera Assassin's Creed Odyssey, les chants de l'Elysée.
Eh oui.
Est-ce que ça relance la machine, tu penses?
Exactement. Il y a peut-être tout ce que vous voulez aux Champs-Elysées.
C'est vrai?
C'est ce qu'on va voir.
Et puis la rumeur aussi, Ragnarok, mais on verra, on en parlera, on en discutera tout à l'heure. Et le troisième thème, Sonic the Movie, qui fait couler beaucoup d'encre, qui fait parler dans les chaumières, n'est-ce pas?
Qui fait tiep, t'as envie de dire. Hein.
Qui fait un peu tiepi, mais bon. Non, non, mais ça peut être rigolo, vous allez voir. Et bien sûr, la rubrique anniversaire et hors-jeu habituelle que vous retrouverez en fin d'émission. Mais tout de suite, Romain va nous parler du win de la semaine, n'est-ce pas, Romain Mahut?
Le win, c'est le très occupé studio Platinum Games qui nous le propose. Parce que, bon, c'est déjà que le studio travaille sur Bayonetta 3. Il y a aussi le jeu en développement sur Switch dont le titre m'échappe à l'instant. Est-ce que je l'ai noté quelque part? Non.
Mais non. Donc, ah bah bravo.
Celui qui avait été révélé au dernier
Nintendo
Direct.
Oui, voilà, un jeu récemment.
Un mélange d'action, robotique, etc.
Bon, vous nous le direz dans les commentaires.
Ah, bah, je suis désolé, mais bref, c'est pas vraiment ça le sujet du.
Voilà,
du,
exactement.
De ce win.
Du teasing.
Ce sont les déclarations de Atsushi Inaba. Donc un des responsables du studio qui s'est exprimé au micro du site VGC. Et donc il a fait pas mal de teasing sur ce sur quoi bosse Platinum dans le secret. Donc il parle carrément, alors là c'est vraiment
carrément.
De l'hyperbole, d'un projet sans précédent, jamais vu. C'est en fait, ils ont récemment revu leur manière de créer les jeux, la structure des développements, l'ordre dans lequel ils font les choses. Enfin, ils ont apparemment totalement revu leur manière de développer des jeux. Et il a carrément dit, ça a eu pour conséquence de créer un jeu qu'il exprime comme étant quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Donc il ajoute, j'ai conscience que beaucoup de gens disent ça, mais le jeu sur lequel nous travaillons est vraiment différent de tout le reste. Malgré les carrières variées de nos développeurs vétérans, c'est quelque chose qui n'a jamais été conçu auparavant. Du point de vue du game design, nous sommes donc véritablement excités en ce moment. Donc malheureusement, il rentre pas dans les détails, il explique pas de quel type de jeu il peut être question, mais ouais, c'est un gros projet pour eux. D'ailleurs, Platinum Games, en plus de modifier leur manière de développer les jeux, explique qu'ils vont aussi changer totalement la manière d'éditer les jeux, parce que jusqu'à présent, c'était beaucoup des jeux de commande faits via des éditeurs tiers.
Là, ils s'émancipent, ils en ont marre.
Ils alternaient en fait. Ils faisaient pas mal de jeux de commande pour réussir à côté à faire des jeux à eux qui se vendaient malheureusement toujours un petit peu moins.
Mais ouais, mais ces jeux à eux étaient toujours. Se faisait toujours via un éditeur tiers. Là, ils commencent à envisager l'auto-édition. Enfin, ils veulent carrément éditer leur propre jeu. Mmh. Alors, ils expliquent aussi qu'ils peuvent être amenés, si le projet le justifie, à travailler sur des gros jeux pour le compte d'éditeurs tiers. Mais on sent que c'est un studio qui a envie de gagner en envergure et en autonomie aussi,
ouais, tout à fait.
Au cours des prochaines années. Et en plus de ça, en plus de ces déclarations sur le gros projet apparemment jamais vu sur lequel ils travaillent, ils ont aussi glissé qu'il y avait des gros changements du côté de Bayonetta 3 aussi, et que ces changements, en fait, ils expliquaient qu'avant Bayonetta 1 et 2, ils avaient développé le jeu dans l'ordre du, comment dire,
du déroulement scénaristique.
Voilà. Ils faisaient niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Et ensuite, ils creusaient un peu l'histoire au-dessus de ça.
Alors que là, il y a des flashbacks, des machins.
Apparemment, ils ont totalement changé leur manière de faire pour Bayonetta 3. Et que potentiellement, ces changements pourraient être ressentis in-game par le joueur. Donc, est-ce qu'on va... On se dirige vers un changement de structure dans Bayonetta 3, par exemple, avec un jeu plus ouvert.
Bah, moins dirigiste, ce serait pas mal, oui, parce que c'est deux excellents jeux, mais avec une narration un petit peu imposée, quoi.
Vous verrez qu'il y aura des flashbacks.
En tout cas,
il y en avait déjà dans le premier.
Non, c'est une référence, c'est pas grave.
Le win de cette semaine, c'est au sens où, le studio a l'air de plutôt bien se porter, gros projet en cours, de l'ambition aussi pour Bayonetta 3, donc les fans de Platinum Games ont de quoi se réjouir en ce moment. Voilà pour le win.
Et ça va dans le sens de ce que déclarait Inaba il y a déjà une paire d'années, je crois, où il disait vouloir prendre un petit peu plus en compte la vie de tout le monde à l'intérieur du studio, c'est-à-dire que le troufillon de base,
tout de suite,
n'importe quel développeur pouvait avoir une bonne idée, la soumettre.
Ils ont une boîte à idées, et du coup.
L'idée, non, c'était d'examiner
tout le monde à contribution,
d'écouter.
Mais c'est comme ça que ça doit marcher, moi je suis d'accord.
Et c'est comme ça que ça devrait marcher, effectivement. Et juste pour compléter, le jeu dont on parlait avant, c'est Astral Chain, qui avait été dévoilé il y a quelques semaines.
La chaîne Astral.
Comme ça, on est complet.
Tout à fait. Après le win vient
le fail, je crois.
Exactement. Et c'est Thomas qui va nous parler d'un truc assez bizarre, révélateur aussi peut-être.
Le fail cette semaine, alors en soi c'est pas forcément très surprenant parce qu'on va parler de Star Citizen, hein, un développement qui...
d'Arlésienne.
Voilà, qu'on peut qualifier d'Arlésienne.
Il a des défenseurs acharnés. Hein.
Ah bah bien sûr, vu l'argent qu'ils ont récolté, oui je pense.
Non mais d'autres gens qui disent non mais Star Citizen on y joue, c'est
déjà oui,
c'est
très bien. Il est disponible un petit peu en alpha, mais en développement quand même depuis 2011, hein, on le rappelle, ça fait 8
ça
ans.
Ça fait 8 ans maintenant.
Voilà, au jour d'aujourd'hui.
Et beaucoup d'argent dépensé pour des trucs qui en valaient sans doute pas la peine.
Mais ça coûte cher de créer l'espace, mon cher Traz.
Exact.
Et même d'y aller. Et cette semaine, si on vous reparle de Star Citizen, pardon, c'est parce que son patron, Chris Roberts, fondateur du studio Cloud Imperium, a été
vilipendé.
On va dire oui, a été ciblé par le magazine Forbes, le magazine des gens riches, qui a en fait dressé un portrait du Gus et qui est allé enquêter auprès d'anciens employés du studio Cloud Imperium. Et pour le coup, il s'en prend un petit peu plein la tronche,
oui,
en fait, parce que
légèrement.
Chris Roberts est très largement critiqué par ses anciens employés et également partenaires. Parce qu'il aurait à peu près tous les travers qu'on peut imaginer. À savoir que c'est un micromanager donc, qui rentre dans les moindres détails et qui va se poser à côté de vous, regarder par-dessus votre épaule et passer des semaines à vous dire que non, le design de tel vaisseau, il doit être comme ça, au détriment du coup de tout le reste, hein, parce qu'on sait à quel point c'est un jeu... dantesque qui doit demander énormément de ressources.
C'est
et d'ailleurs, c'est l'un des autres travers justement du studio Cloud Imperium, c'est que le magazine Forbes nous révèle qu'en fait, il y a 537 salariés qui sont répartis dans 5 bureaux différents et que tout ça, ça coûte 30 millions de dollars à l'entreprise. Donc, une somme, on va dire, un petit peu conséquente qui
par
commence
année,
à peser par année. Donc,
j'ai calculé, ça fait 55 000 dollars par personne.
Voilà, 55 000 dollars par personne, d'accord. Donc, si vous voulez aller y bosser...
Je pense que
c'est
plutôt
pas forcément dégueulasse.
Il me semble que parce que le niveau de vie et le coût de la vie aux États-Unis est pas le même que chez nous, mais il me semble que 55K par an, c'est pas
c'est
énorme.
C'est le minimum. Hein,
c'est pas énorme.
Quand tu retires ta mutuelle, etc., oui, forcément, plus les loyers.
C'est presque le minimum vital là-bas.
Qui peuvent être assez élevés. C'est vrai qu'il te reste pas forcément grand-chose pour vivre.
Quand tu vois la description micromanager et mauvais gestionnaire de ressources, c'est la super mauvaise association, quoi.
Ouais, c'est
ça. C'est pas très encourageant.
Et le problème, c'est que c'est lui qui est véritablement aux manettes. Et tant qu'on parle d'argent, l'article de Forbes rappelle qu'au total, le jeu a quand même levé 288 millions de dollars au total. Parce qu'il y a eu plusieurs levées de fonds. On avait commencé à 14 millions, si je dis pas de bêtises, vraiment au tout début du projet en 2011.
Kickstarter, c'était un mélange de Kickstarter, ensuite c'est passé directement sur le site officiel. Et c'est vrai que c'était très vite, c'était ça a battu tous les records
levé.
Donc là, ça à 200 millions, ça avait dépassé le budget du Titanic, du film Titanic. Là, effectivement, 288 millions, c'est juste énorme. Et c'est à 300 millions, je crois, maintenant. Depuis cette
année. C'était les chiffres de Forbes cette semaine. Donc,
mais surtout que les gens continuent à dépenser des sommes folles, j'ai vu pour des vaisseaux ou des
plusieurs
trucs comme
milliers
ça.
De dollars,
c'est... Bah, de toute façon, après, s'ils emploient plus de 500 personnes, il faut les payer tous ces gens-là.
C'est dit, 30 millions par année, ça fait beaucoup quand même.
Mais quand, si le jeu sort un jour, enfin en version définitive complète, je me demande bien combien d'argent ont dépensé certains avant même d'avoir le produit.
D'avoir pu jouer la version finale.
Il y a des histoires de plaintes de gens en fait qui disent s'être fait avoir en fait par le système du jeu où ils ont dépensé des sommes folles, notamment un utilisateur qui a dépensé 8000 dollars en tout et qui a du coup porté plainte. Donc aux États-Unis on sait que la plainte est plus facile en tout cas qu'en France.
Quand ils font des class action.
Exactement. Et là, bah, visiblement, c'est encore en cours et ils pourraient gagner gain de cause.
Mais pourquoi il a dépensé 8000 dollars pour des trucs cosmétiques,
des pour des vaisseaux, etc. Mais il pense qu'il a été trompé puisque sur la marchandise, puisque la date de sortie a été maintes fois repoussée. Donc du coup, toi, tu mets ton argent en espérant que le jeu, enfin, parce qu'on t'a dit que le jeu sortait
en version finale et tout
exactement
ça.
Telle année. Et finalement, à la fin de l'année. Cette même année, on dit ah bah non, en fait, ça sera l'année prochaine. Donc c'est un peu problématique. Après, je sais que bah, sur Gameblog ou même partout, hein, il y en a des défenseurs de Starcision. Moi, j'ai mis des pièces dedans aussi. Hein, j'ai pas le mentir. Après,
j'ai mis 15 000 euros.
Je crois que j'avais mis 40 euros à l'époque.
Il y a quelques années. Ouais.
Bah, c'est vrai, c'était il y a 4 ans, je crois maintenant, 5 ans.
Ouais.
Mais Chris Roberts, son micromanagement, il était connu depuis longtemps puisque c'est pas son premier jeu non plus. Hein, faut le savoir.
Ah bah non, bien sûr.
Après, c'est vrai que le coût de la mauvaise gestion de l'argent, ça c'est impardonnable, on va dire. Il aurait dû mieux s'entourer, en fait, je pense.
Il y a un ancien collaborateur qui disait que justement, au moment où l'argent a commencé à vraiment affluer au sein du studio, il y a plein de travers et de mauvaises habitudes qui sont revenus chez Roberts. Et ils sont repartis dans un espèce de cycle un petit peu infernal. Donc là, en l'occurrence, voilà, dans l'article, il s'agissait pas de critiquer Star Citizen, le projet ou même le contenu du jeu, mais bien le fonctionnement du studio à la lecture de l'emprise de Roberts sur l'ensemble du développement.
Je crois même qu'au début de l'article, il précise bien le jeu est effectivement bel et bien en développement. Et que c'est vraiment pas ça qui remet en cause puisque le jeu progresse vraiment quoi. Ouais.
Et puis la vidéo qu'on peut voir à l'écran, ceux qui sont premium, c'est plutôt bien. Hein. Enfin, c'est beau quoi.
C'est
des cinématiques, c'est sûr. Mais bon.
Ouais, mais cinématiques avec le moteur du jeu.
Mais je trouve que ça rend très très bien. C'est vachement fin et tout. Quoi.
Le problème, c'est que la mauvaise gestion financière, le micromanagement, etc., ça peut avoir des impacts négatifs sur le jeu en lui-même. Donc,
bien sûr.
Les mauvaises décisions, on sait à quel point ça peut impacter le résultat final.
Alors, donc, est-ce qu'il sortira un jour? On ne sait pas.
Camille, j'ai une question.
Avant la fin des temps.
Pour 40 euros, les 40 euros que tu as mis dedans, ça te donne droit à quoi?
Ça donne l'accès en fait à toutes les phases dites d'alpha. Donc en fait ils ont sorti ça par palier, c'est-à-dire que tu avais le palier d'abord FPS où tu avais vraiment la découverte, le système de tir, etc. Ensuite tu avais le système multijoueur, enfin multi-équipage, tu pouvais ensuite multimonde où ils ont rajouté plusieurs planètes. Donc là on est à cet état-là, c'est-à-dire qu'on peut visiter plusieurs planètes, plusieurs astres.
Après t'auras multi-univers.
Et après le but à terme c'est d'atteindre le palier du Squadron 42 qui est l'équivalent de la campagne solo.
Ah oui.
Et ensuite le monde ouvert multijoueur.
Mais t'auras accès à tout ça aussi avec tes 40 euros.
T'as accès à tout ça avec les 40 euros et t'as un vaisseau.
40 euros, c'est le prix du jeu. Hein,
ouais,
quand
c'est
y pense,
ça.
Hein.
Donc, c'était le prix du jeu de base. Non, je crois que c'est 30 euros pour accéder à tout ça. 40, c'est pour juste avoir un vaisseau un peu plus puissant et avoir une.
Mais ça se trouve, leur modèle économique tient la route. Hein, et qu'effectivement, quand il va sortir, ils vont se faire des de platine. Hein.
Non, mais surtout, c'est 300 millions de dollars actuellement. C'est pas la seule somme qu'ils ont gagnée, puisqu'ils ont aussi des financements privés. En plus de ça, qui n'ont jamais été donnés. Donc ça se trouve, ils ont peut-être même 100 ou 200 millions en plus que cette somme-là. Donc c'est assez impressionnant.
Tout à fait. Bah, écoutez, voilà hein, pour ce fail très très long, mais qui en valait la peine. Exactement, plein de chiffres.
Ça en vaut la peine parce qu'on sait dans tous les cas que ça a marqué l'histoire du jeu vidéo, que ça se finisse en bien ou en mal.
Oui, donc, exactement. Soit c'est un putain de flop, soit c'est un méga top. Et bien tout de suite, il y a 10 ans sur Gameblog. Et il y a 10 ans sur Gameblog, que s'est-il passé, mon cher Thomas? Tu vas nous rafraîchir notre mémoire vive.
Et oui, tout à fait, 30 ans, tu étais là, mon cher Trace, tu devrais t'en souvenir.
Mais je m'en souviens plus.
Il n'y a pas si longtemps finalement. Et il y a 10 ans sur Gameblog, on va d'abord vous parler d'un petit classement qui a été publié une fois de plus dans le magazine japonais Famitsu.
Famitsu!
Qui avait demandé à ses lecteurs quelle suite de jeux ils aimeraient voir débarquer. Donc le vote était complètement ouvert et on vous avait parlé un petit peu justement des licences qui étaient le plus ressorties.
C'est vrai.
Et c'est intéressant de le voir à la lecture des news de cette semaine, en fait, puisque le premier, on est au Japon, je vous le rappelle, c'est Sakura Taisen, une série qui est aimée, chérie des joueurs japonais.
Ah bah là, oui, c'est sûr.
Et ça fait évidemment écho à l'actualité, puisqu'on a eu cette semaine pas mal de nouvelles infos sur le nouveau Sakura Taisen, qui est un vrai nouveau chapitre qui va tenter de faire venir à lui de tout nouveaux joueurs. et qui tire parti aussi, mine de rien, des récentes évolutions techniques du côté de chez Sega, notamment avec le Hedgehog Engine, mais également de tout le travail et de toute l'expérience qui a été acquise sur les cutscenes de Yakuza. C'est ce qu'on a appris hier. C'était la licence que les Japonais voulaient à tout prix revoir sur le devant de la scène. Bah, on sait que 10 ans plus tard, ça va arriver. Le jeu est prévu pour 2020.
Exactement.
En deux, Shenmue. Ça alors.
Ouais, c'est amusant de voir les deux premiers les deux premières
moi,
places.
Moi par Gotcha Force, je connais tout hein, mais Gotcha Force, je sais pas ce que c'est.
Tu te dis que là finalement les deux premières places auront mis 10 ans partir de ce sondage là, parce que on aura normalement Shenmue 3 cet été et Sakura Taisen l'année prochaine, donc un peu de choses près,
c'est cohérent. Hein.
C'est ça qui est assez amusant. Temps, hein. Après Shenmue en deuxième position, je me demande
aujourd'hui,
si
je pense pas que ce soit encore le cas.
Est-ce que le sondage était en ligne ou est-ce que c'était un sondage sur la version papier?
Alors, la news de l'époque ne l'indiquait pas.
Parce qu'il y a 10 ans, c'était seulement sur papier, je pense.
Parce que s'il y a la version en ligne, il faut savoir que les fans de Shenmue sont capables de participer et de découvrir les sondages dans le monde entier. Donc, il y a plein de sondages japonais, trucs comme
lobbying.
Ça, qui ont été faussés au fil du temps par les fans de Shenmue occidentaux.
Enfin, ça paraît un peu cohérent quand même.
Oui,
je pense que c'est le magazine, à mon avis.
Oui, c'est. Mais vu le nombre de votes, je pense que c'est le magazine, effectivement. Mais ouais, il y a des trucs curieux. Tu vois, moi, je vois 10e position au Kowloon's Gate. C'est un jeu qui m'a toujours intrigué, mais le problème c'est que c'est jamais sorti chez nous, donc
c'était super beau, mais je crois que c'était pourri en fait.
Et pour finir le podium, on avait quand même Okami en troisième position. Oui.
Trois valeurs sûres en fait.
Okami qui aura quand même connu une suite, alors bien avant Shenmue 3 et le nouveau Sakura Taisen, puisque une suite sera sortie sur DS quelques années plus tard.
Mais je pense que si tu fais le sondage aujourd'hui,
c'était une préquelle de mémoire Okami Den sur DS.
Oui, puisque tu étais avec le petit. Oui, voilà.
Le petit
Nomudaga.
Donc ils ont eu un autre jeu, mais pas une suite directe.
Oui, mais il y a eu un nouvel épisode d'Okami qui était sympathique comme tout.
Oui.
Quant à la next-gen de Pachter.
Et voilà, ensuite on parle de l'analyste, le fameux Michael Pachter, dont on parle quand même.
L'analyste préféré des Français.
Beaucoup moins l'analyste préféré des Français.
C'est vrai que ça fait un bout de temps que.
Si, il continue de temps en temps. Il est toujours là.
Il est toujours là, mais on en parle quand même un petit peu moins. Et il y a 10 ans, une fois de plus, Pachter avait sorti sa boule de cristal et nous avait fait des prédictions dans à peu près tous les sens.
Avec ses infos.
Avec ses infos, et c'est toujours un petit peu rigolo de voir a posteriori un petit peu
à quel point il se plantait à peu près tout le temps.
La véracité des déclarations de l'époque, et en l'occurrence, Pachter nous annonçait une Wii HD qui allait être mise en vente l'année suivante, donc évidemment en 2010, puisqu'on était en 2009 à l'époque. On sait évidemment que la suite ne lui aura pas donné raison, puisqu'il aura fallu attendre la Wii U pour avoir une véritable console HD chez Nintendo. Là où il s'est quand même un petit peu moins planté, c'est sur l'arrivée de la next-gen qui ne situait pas avant 2013. En tout cas, ça c'était sa déclaration à l'époque. Ce qui, pour le coup, était peut-être moins risqué, avéré pour le coup. En l'occurrence, la PS4 et la Xbox One sont arrivées à la fin de l'année 2013, donc il ne s'était pas planté sur à peu près toutes ces prédications. Mais voilà, c'est toujours marrant de...
Prédiction même.
Prédiction, oui. Parce que les prédicateurs, c'est autre chose. C'est pas la même soupe, si vous voyez ce que je veux dire.
Tout à fait.
Après, oui, il y a toujours des gens comme ça pour balancer plein de théories dans tous les sens. Et il y en a toujours une qui finit par tomber juste et qui se base sur cette bonne trouvaille pour ensuite faire
Moi à l'époque,
tout le reste.
Moi, à l'époque, il y a longtemps, je disais à Sony, au RP chez Sony, bon, vous la sortez quand la PS portable?
Et tu leur as donné le nom et tout, c'est quand même sympa.
Non, mais vraiment, c'est ce que je leur disais, mais c'était bien avant que la PS Vita sorte, tu vois. Ouais, ils avaient pas de sourire en coin,
même la PSP. Il y avait la PSP avant la Vita.
Ah oui, pardon, la PSP, pardon, pas la PS Vita, oui, effectivement. Mais c'était à l'époque où ils en sortaient pas, tu vois, ils en avaient pas sorti. Mm-hmm. Et ils me regardaient tous bizarrement comme ça, genre, mais attends, mais pourquoi il me dit ça? Je comprends pas.
Comment ils
Donc forcément, à un moment donné, tu sais que ça va arriver, quoi. C'est pas devin que de dire ça, c'est juste la logique des choses.
Donc voilà,
d'ailleurs, la PS Vita 2 va bientôt sortir.
Ah bah cool, ça c'est une bonne nouvelle pour le coup.
T'es deg hein?
Ouais. Ah bah non, je suis super content.
Cool.
Donc ça voilà, c'était la page Pachter d'il y a 10 ans. Et la troisième info qui va forcément intéresser Romain, puisque
quant à Julien Hubert,
Julien Hubert, feu Julien Hubert, nous racontait en mai 2009 qu'il fallait s'attendre à un nouveau Yakuza
entre deux courants d'air.
L'espace, mon cher Romain.
Dans le ZEF.
C'était une des déclarations visiblement de Nagoshi à l'époque dans, une fois de plus, un numéro de Famitsu.
Nagoshi lâche le morceau.
Exactement, un Yakuza dans l'espace qui serait prévu à l'époque sur PlayStation 3.
Tu peux descendre, Poufy, sur la citation parce que j'ai lu le truc tout à l'heure. Si le personnage principal, Kiryu Kazuma, allait dans l'espace ou partait combattre des zombies, je pense que les fans l'accepteraient et diraient « je prends ».
Moi, j'ai surtout il n'y a pas eu de zombies ni l'espace.
Si, moi j'ai surtout noté les zombies justement parce qu'en 2011 il y a eu Yakuza Dead Souls où justement c'était pas dans l'espace mais
il y avait
effectivement des zombies à Kamurocho et c'est un jeu en fait qui compte pas dans la chronologie principale.
Ah
ouais, c'est un peu un délire.
C'est un spin-off.
Ils ont même fait revenir des personnages morts, etc. Tu vois, c'était où tu affrontais des zombies. Après aussi c'était pas vraiment dans l'espace non plus, mais il y a eu Binary Domain qui est sorti un peu après.
Le domaine binaire.
Qui était plus ou moins qui utilise le même moteur qu'Yakuza mais qui est pour le coup un TPS sci-fi qui est excellent d'ailleurs, je sous-estimais selon moi.
J'ai
donc
fait.
Tu vois, pour le coup avec ce qu'il disait sur les zombies,
pas trop déconnant
non
plus.
Voilà, si on a mis l'accent sur l'espace alors qu'en fait c'était plus sur les zombies qu'il aurait fallu.
Ah, c'est la faute de Julo qui a mal interprété les
c'est
propos
la faute
de Nagoshi.
À pas de chance. Voilà. Exactement.
Mais je savais Michael, que... pas de chance.
Exactement, tout à fait.
Je savais que cette actu te
oui,
plairait.
Oui, merci, merci.
Te plairait à fond les ballons. Eh bien, merci pour cette époque bénie d'il y a 10 ans. Rappelez-vous, formidable.
C'était le bon temps, paraît-il.
Exactement. Mais aujourd'hui, c'est le bon temps aussi parce qu'on
c'est
a
vrai.
Un thème qu'on va aborder tout de suite. Le thème numéro 1 qui est Borderlands 3. N'est-ce pas, mon cher Camille?
Exactement.
Que peux-tu nous dire sur Borderlands 3, toi qui as été le voir?
Bah déjà, j'ai pu le voir, mais surtout...
À Los Angeles,
j'ai pu y jouer, surtout.
Et tu y as joué, évidemment.
Avec... De quoi?
Il a dit, t'as été le voir à Los Angeles.
Il y a Randy Pitchford qui est venu sur scène pour nous présenter...
Des bobards pendant une demi-heure.
Pour raconter du bullshit.
Pour nous présenter le jeu, les différentes mécaniques qu'il allait avoir, etc. Et puis après, on a eu la chance de pouvoir y jouer directement.
T'as joué combien de temps à peu près?
J'ai joué 2h30, ouais.
C'était le créneau qu'il laissait un peu à tout le monde, c'est ça?
Ouais, c'était le créneau de base pour découvrir vraiment la démo. En fait, de toute façon, la démo se terminait
au bout de 2h30, d'accord. T'as eu Pip?
Et ouais, et bah d'ailleurs, on retrouve la mascotte sur le bureau pour les premiums.
Exactement.
Et donc, moi j'étais pas spécialement un grand fan de la saga Borderlands, donc j'ai d'autant été plus surpris que, ma foi, cet épisode 3 a réussi. À convertir les gens qui ne sont pas du tout qui n'ont pas du tout d'affinité avec la saga, et ça déjà je trouve que c'est plutôt un bon point parce que quand on arrive à un troisième épisode, en général on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de fanservice et que finalement le jeu ça s'adresse pas vraiment aux nouveaux venus, alors que là c'est totalement l'inverse.
Tu t'es pas senti largué?
Je me suis pas senti du tout largué. En fait le jeu s'adresse vraiment à deux catégories de personnes, ça Randy Pitchford l'a bien précisé tout de suite lors de la conférence, c'est qu'évidemment le jeu est bourré de fanservice, c'est à dire qu'à des moments on va rencontrer des personnages de Borderlands 1 et 2. Il va y avoir des petites références, surtout que le jeu garde toujours son ton très humoristique, donc des petites références à l'histoire du premier, ce qu'on a pu faire dans le 2, etc. Mais à la fois, il y a un tutoriel très complet et très simple d'accès qui permet de comprendre tout de suite les mécaniques du jeu et de tout de suite de rentrer en fait, d'avoir ce côté immersif, de comprendre tout de suite où veut en venir l'histoire. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et ça permet aux gens qui n'ont jamais touché un Borderlands de leur vie de pouvoir apprécier la bête. Alors après, c'est un... Pour ceux qui ne sont pas du tout à même avec cette saga, c'est un FPS, on pourrait même appeler ça un fast FPS, puisque le jeu est très rapide, très...
très nerveux.
Très nerveux, voilà ça, merci mon cher Thomas. Un FPS très nerveux dans lequel on va devoir enchaîner comme ça les ennemis qui sont très nombreux. Ouais, et qui proposent un système de dégâts un peu à la façon RPG, c'est-à-dire on voit vraiment la jauge de dégâts qui va baisser.
Oui, il y a toujours une notion de RPG quand même.
Il y a toujours une notion de RPG, après c'est pas, on va pas avoir des choix de dialogue, etc. Ouais. Mais on a un arbre de compétences qui est extrêmement complet. On a trois arbres de compétences. Et dans chacun de ces arbres, on a 20 compétences pour chacun
d'accord.
des personnages.
Ah ouais.
Donc ça laisse quand même 60 compétences différentes par personnage. Ça permet d'avoir soit d'axer plus sur le DPS, donc sur les dégâts, soit plus sur le tank, donc plus sur la résistance ou même sur le soin, puisque évidemment le jeu est jouable en coopération, il est même chaudement recommandé en coopération. Malheureusement, on y a joué en solo, puisque la démo était entièrement solo, mais c'est un jeu vraiment qui pousse à la coop. C'est vraiment quand on y joue en coop, on a l'impression de jouer un peu un autre jeu, quoi, parce qu'on voit le jeu d'une manière différente, la difficulté va s'adapter. J'ai pu interviewer certains développeurs de Gearbox Québec, donc qui est le studio qui le second studio qui a travaillé sur le jeu, qui ont travaillé notamment sur des Katana, etc., etc. Et ils ont pu effectivement m'expliquer comment fonctionnait ce système-là. Et quand on joue en coopération, en fait, la difficulté va s'adapter directement au nombre de joueurs qu'il y a, parce qu'on peut jouer jusqu'à 4. Donc évidemment, bah, le jeu prend en compte tout ça. Il y a normalement aussi un niveau de difficulté. Alors là, pareil, qu'on n'a pas pu le fixer, puisque pour le bien de la démo, c'était tout était tout
équilibré,
était
grisé, évidemment, ouais.
Équilibré, etc.
Tout le monde,
le jeu était même très simple à certains moments où on pouvait résister à des assauts de nombreux ennemis sans avoir besoin de se soigner.
Pour pas qu'il y ait trop de frustration.
Voilà, pour pas qu'il y ait de frustration.
Et des nids de manettes cassées.
Mais surtout qu'en fait, le jeu était prévu. Non, mais tu rigoles, mais c'est un peu ça, parce que le jeu était prévu aussi pour être streamé, puis il a été streamé.
Ah oui.
Et évidemment, quand tu streames un jeu et que tu.
Il vaut mieux que tu avances vite plutôt que.
Il vaut mieux que ça soit trop simple que trop compliqué. Est-ce que streamer un jeu très compliqué, même nous, des fois.
Sinon, on filme ta phase de tutoriel et tu retrouves la risée du net.
Non, mais
c'est un peu ça.
Des fois, qu'on s'en rend bien compte quand on fait nos Game Long Live sur des jeux, si vraiment la difficulté est trop corsée, de devoir expliquer le jeu par en même temps et en même temps gérer la difficulté du jeu, ça devient très vite complexe.
Surtout sur un jeu là que tu découvrais à ce moment-là.
Exactement, ouais.
Et il faut rappeler que sur ce genre d'événement, t'as des journalistes, mais t'as des fans aussi. Enfin, tu peux avoir des profils très très variés.
Des streamers, des youtubeurs.
Et il faut proposer une seule démo pour tout le monde. Donc il faut trouver un équilibre qui satisfasse à peu près tous ces
gens-là,
tous ces êtres.
En général, de toute façon, et là ça s'applique aussi à l'E3
et là,
ou
tout
des trucs comme ça, quand tu vas à une démo end-zone, comme c'est souvent une séquence de jeu assez courte, il faut pas que tu te prennes la tête à comprendre la prise en main. Et en plus, comme ils veulent pas
parce
que tu quittes la démo avec un sentiment de frustration
sans l'avoir fini,
t'as pas réussi, souvent les démos elles sont en facile ou en normal pendant ces trucs-là.
Donc c'était effectivement le cas. Alors pour la petite anecdote, on pouvait, il y avait, alors c'était très particulier parce qu'il y avait une manette de brancher, il y avait un clavier branché qui marchait, un clavier qui marchait. On l'a essayé avec certains de mes confrères et en fait ils nous ont dit dès qu'on joue au clavier, non, faut jouer à la manette.
On t'a refusé l'accès au clavier.
Je crois que c'est précisé dès les premières lignes de ta news. Je sais pas du tout.
Peut-être que ça buguait au clavier aussi. C'est possible.
Alors selon eux, ils nous ont dit attention, si on joue au clavier, le jeu crash. J'ai jamais vu un jeu crasher. Ouais, alors j'ai jamais vu un jeu crasher.
Attends, moi j'ai fait cracher des consoles en jouant la manette. Hein.
Ouais, mais là le clavier était branché.
Et genre 5 fois de suite.
C'est pas comme si tu branchais un clavier et que ça allait faire cracher le jeu. Clavier était déjà pré-branché. Enfin, bref,
et fonctionnel.
Mais bon, c'est vrai que.
Tu étais forcément triste et un petit peu frustré.
Disons que pour un jeu comme Borderlands 3, c'est vrai qu'on s'attend à jouer plus au clavier qu'à la
manette. Ouais, mais justement, c'est peut-être là où tu vois qu'ils ont peut-être voulu simplifier la chose pour tout le monde et que le titre soit plus accessible aussi.
Ouais,
pour eux, ça passe peut-être forcément par la manette.
Je sais pas, parce que franchement, le marketing qu'ils ont fait, il y avait toujours ce côté très nerveux, PC focus, donc je sais pas.
Oui, mais en même temps, à Fast FPS, tu penses plus au PC
que
consoles.
Peut-être qu'effectivement, il était pas optimisé pour le PC au moment où tu as joué, et puis voilà.
Bon, en tout cas, c'était une petite parenthèse comme ça, mais sinon, le jeu, évidemment, reprend tout ce qui fait la recette du succès.
Bah, déjà, graphiquement, il reste dans la même veine.
Il reste dans la même veine,
mais par contre, il a l'air super, beaucoup plus fin, j'ai l'impression.
Alors,
plus fouillé graphiquement.
Il y a deux aspects qui sont bien souligner mon chartra, c'est qu'effectivement le jeu est plus fouillé, c'est-à-dire que justement le studio Gearbox Québec se sont chargés notamment de ça, c'est-à-dire qu'en fait
ils sont forts au Québec.
Le 1 et le 2, les environnements étaient assez vides, c'était une critique qui revenait assez souvent.
Moi je trouve que c'était vachement vide.
Là il y a beaucoup de détails, c'est-à-dire que quand on arrive dans une pièce, il y a plein de petits trucs, la direction artistique joue avec ça.
Quand on voit les images pour ceux qui regardent.
Il y a des affiches, il y a plein d'écriteaux, voilà, on les voit, des écriteaux avec marqué des petites phrases souvent humoristiques.
Il y a plus de narration par les décors en fait que dans
les deux
précédents.
C'est ça, il y a des petits objets d'art, des petits secrets, il y a plein d'endroits. Avant on passait, ça donnait pas envie d'y aller parce qu'en fait c'est juste un coin vide. Alors que là on arrive dans une pièce, il va y avoir un coffre caché derrière une pancarte, etc. etc. Surtout que le jeu nous propose pas uniquement la planète désertique qu'on avait l'habitude de jouer dans le 1 et le 2, nous propose une nouvelle planète. Et il y en aura même d'autres qui devraient arriver. Alors la planète qu'on a pu jouer le plus grand temps, c'est celle-ci. C'est la planète qui s'inspire très largement de Coruscant dans Star Wars. Donc c'est une planète.
J'allais dire ça ressemble à Star Wars, mais
ouais, ça ressemble à Star
Wars. Je suis pas un expert, mais
une planète
avec
une...
des êtres bizarres.
Des êtres bizarres, ça toujours dans Borderlands.
Ouais, il y a ça sur la Terre aussi.
Ouais, mais là on a vraiment ce qu'on n'a pas envie d'avoir sur Terre, quoi, c'est-à-dire
c'est quoi, c'est un monde poubelle ou quoi?
Ouais, c'est un monde poubelle, une ville faite de grands buildings, une planète citadelle en fait, planète cité, c'est très très
donc avec plein de bidonvilles, etc.
Plein de bidonvilles, etc. C'est vraiment très très glauque, mais bon, après le jeu se joue de ça aussi et reste très humoristique puisque l'humour est omniprésent dans le jeu. Mm-hmm. Les personnages sont très drôles. En eux-mêmes, ils sont très, voilà, ils ont des traits très poussés, très poussifs, très grotesques même, je dirais même.
Et ils sortent toujours des vannes, des choses comme
ils sortent,
ça.
Ouais, il y a des vannes à chaque instant. Même les ennemis, ils nous sortent des vannes. Ils en fait, quand on rencontre des ennemis, ils ont chacun des petits noms en fait. Quand on, en fait, on rencontre des mini-boss et ils ont chacun leur nom et chaque fois c'est des noms vraiment farfelus. Ouais. Genre, je pourrais pas vous les citer là, mais c'est vraiment. Des fois, c'est vraiment, vraiment limite tordant, quoi. C'est vraiment bien poussé. Le jeu a une très belle écriture, donc ça, c'est plutôt pas mal. Évidemment, le jeu repose sur un système de loot shower. Donc, loot shower, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est quand on tue un monstre, on a une montagne de loot qui va apparaître, une douche de loot, comme son nom l'indique. Et évidemment, de nombreuses armes, puisque le principal intérêt du jeu, ce sont le loot d'armes, puisque le jeu propose 1 milliard d'armes différentes.
Alors, évidemment, oui. Ça m'a toujours fait rire, ça.
J'aurais demandé comment fonctionnait le machin. Évidemment, il n'y a pas des petites mains qui vérifient à chaque fois si l'arme est correcte ou pas. Hein. C'est un PC qui va générer ça automatiquement.
Ouais. Mais c'est des petits détails à chaque fois, j'imagine. Alors, qui fait qu'on arrive à 1 milliard, non ?
Pas tant que ça. Alors évidemment, sur les 1 milliard, il y en a quand même un bon million qui sont semblables.
Ouais. Mais, genre 1 million de couleurs différentes, quoi. Enfin, j'en sais rien.
Mais... Peut-être pas, mais il y a un million
de dégradés.
Non, mais il y a un scope qui va changer, un mode de tir qui va changer, puisque maintenant les armes proposent plusieurs modes de tir. On a par exemple un mode. Électricité, un mode cartouche enflammée, voilà, ouais, plein de trucs. On a des nouveaux dégâts, on a des dégâts type pas nucléaire, enfin c'est pas de l'acide, mais c'est comme dans Fallout, comme on dit, des dégâts atomiques, enfin
ce que tu veux dire,
à l'uranium et tout.
Ouais, voilà, à l'uranium, etc. Enfin, plein de trucs comme ça qui sont très sympathiques. Et évidemment,
les dégâts à l'uranium, c'est très sympathique.
Dans le jeu, c'est sympa d'avoir ça, quoi. Et tous les ennemis ont des faiblesses. Donc évidemment, le robot, il va être plus tenté d'avoir des faiblesses sur l'électricité. Alors que quelqu'un qui a une grosse armure, on va peut-être tenter avec le feu, etc.
Chacun
etc.
ses points faibles, etc.
Chacun ses points faibles. On a aussi les skills qui vont compter à ça, certaines skills qui vont pouvoir utiliser les points faibles des ennemis ou pas. Par exemple, pouvoir éjecter un ennemi en l'air, lui faire une sorte de... lui foncer dessus, lui faire une sorte de croche-pied pour qu'il puisse tomber, etc. Enfin, il y a vraiment pas mal de trucs et c'est hyper intéressant. Alors après, voilà, évidemment, les 1 milliard d'armes, vous attendez pas à ce qu'il y ait 1 milliard pile d'armes vraiment différentes. Sinon
si, moi je vais les compter.
De toute façon, vous n'aurez pas... Voilà,
tu as posé tes...
Sinon, class action...
Vous n'aurez pas, de toute façon, voilà, l'occasion de les compter ni de toutes les voir dans votre session de jeu. En sachant que, toutefois, le jeu est plus long que les autres.
Ils ont touché les boundaries.
Les développeurs nous... tu rigoles, mais c'est un peu en substance que nous ont dit les développeurs.
Bon, hein. Ça alors.
comme de par hasard. Ils nous ont dit effectivement que c'était le jeu le plus vaste de la saga Borderlands.
De tous les temps.
Et qu'il serait plus long que tous les autres jeux réunis. Donc ça laisse quand même une vague idée de ce qu'elle peut donner.
T'avais des petites réserves quand même sur certains points.
Ouais, j'avais des petites réserves, notamment sur les véhicules déjà.
Ouais.
Les véhicules sont très lents, très buggés. Ça, c'était déjà ce qui était le cas dans Borderlands 2. C'est-à-dire qu'en fait, le moindre obstacle, c'est un peu incohérent, parce qu'on va pas en conduire un buggy ou un 4x4. Le machin va se coincer sur une pierre, quoi. Enfin, tu vois, tu t'attends pas à ça dans un jeu comme ça.
C'est un
problème de physique pour l'instant au niveau de la conduite.
Sur une pierre,
c'est pas grave, ça arrive.
Tu perds l'utilité d'un 4x4, quoi.
Ça dépend de la taille de la pierre.
Ouais, mais bon, c'est vraiment pas un rocher, c'est une pierre qui fait la taille de ma main.
Ouais, donc il y a un petit problème.
Un petit problème. Et puis, le jeu est mal conçu pour les véhicules de manière générale.
Ouais.
Par exemple, quand on
c'est pas fait pour
à
ça,
certains
quoi.
Moments, on a des environnements assez vastes avec des grands couloirs dans une sorte de bidonville qui sont faits pour les véhicules. Et si jamais notre véhicule explose, on va devoir se faire la phase à pied. Et du coup, la phase à pied n'a aucun intérêt, quoi.
Ah bon ?
Parce qu'il n'y a aucun ennemi qui sont adaptés aux phases à pied.
C'était prévu pour
que
ce soit que véhicule.
Pour les véhicules, donc du coup, c'est totalement incohérent.
Ouais.
L'IA, elle est un peu la ramasse. Je sais que tu as aimé cette phrase, c'est toi qui l'as mis. L'IA est aux fraises et bête à manger du foin. C'est vraiment le cas.
Ça m'a beaucoup fait rire.
Puisque souvent, les ennemis nous tournent autour sans raison et on sent vraiment qu'ils sont à la ramasse.
Pourtant, t'avais l'air de dire que la difficulté s'adaptait quand même au nombre de joueurs.
La difficulté s'adapte au niveau des dégâts, c'est-à-dire que et au nombre d'ennemis en fait. C'est-à-dire que si on est plus nombreux, il devrait y avoir plus d'ennemis et les mini-boss sont plus dangereux, sont plus véhéments.
Mais les routines sont un peu hors des pâquerettes.
Voilà, les mecs vont te tourner autour, des fois ils te lancent une grenade, il s'écarte même pas, enfin c'est des trucs, c'est assez chaud.
Bon bah
quoi.
Je me suis suicidé.
Attaque suicide quoi.
Voilà.
Exactement.
Après, faut savoir quand même qu'il reste 5 bons mois de développement, donc ouais. Ils ont quand même le temps de polish le jeu comme on dit dans le jargon, et d'améliorer un peu tout ça, surtout au niveau des véhicules. Ce serait vraiment dommage qu'ils s'y attardent pas.
Puis il y aura un milliard de patchs.
Voilà, il y aura sûrement un milliard de patchs.
Le patch Day One de 800 gigas.
Ouais, exactement. Après, vraiment, le jeu, enfin Borderlands n'a jamais été connu pour son IA, mais on espère quand même qu'il y aura un petit coup de fouet qui sera donné là-dessus. Mais en tout cas, ça reste quand même une très bonne surprise. Moi, honnêtement, j'ai trouvé ça très fun en ces 2h30 de jeu. Les mini-boss sont quand même assez complexes. Alors, complexes pas parce qu'ils sont intelligents, mais complexes parce qu'ils ont des mécaniques de jeu qui font qui sont assez compliquées. Par exemple, on a
les bourrines pas.
Ouais, un dernier boss était très inspiré de Mars Attack. Alors, toi, c'était un personnage avec son cerveau apparent dans une espèce de coquille. Enfin, c'était vraiment très fun.
De bulle.
Ouais, exactement, c'était ça. Et en fait, il nous tournait autour. Il y avait un espèce de... Alors ça pensait un peu au boss dans les années 90, hein, genre Crash Bandicoot ou Spyro, qui tournait sur lui-même avec un rayon laser, fallait l'esquiver. Après, il te sprintait dessus, il te chargeait avec une espèce d'épée. Enfin, il y a plusieurs phases comme ça à faire. Et honnêtement, c'était assez fun comment c'était fait. Et toujours dans l'optique d'avoir une direction artistique très... très différente, on a vraiment des boss qui changent du tout au tout quoi. On n'a jamais l'impression de rencontrer le même ennemi, et ça c'est vraiment pas mal, et c'est ce qu'on attend d'un Borderlands. Et donc c'était vraiment une petite claque, c'est très sympathique, et j'attends de voir ça en plus en détail, notamment en coopération, pour voir si le jeu tient la route sur le long terme. En tout cas, c'était vraiment vraiment très fun.
Eh bien parfait, je crois qu'on a bien fait le tour. On va rappeler qu'il sort le 13 septembre, c'est ça?
Exact, 13 septembre 2019. Sur PS4, PC, Xbox One.
Xbox One, voilà.
Et c'est Xbox, c'est Gearbox qui est derrière les manettes, et Gearbox Québec. Voilà.
Tout à fait. Eh bien merci beaucoup Camille pour ce tour d'horizon de Borderlands 3. Évidemment, vous pouvez retrouver ces impressions
sur Gameblog, évidemment.
Sur Gameblog, à l'écrit, et puis regarder toutes les vidéos qu'il y a, parce qu'effectivement, avec le reveal, il y a eu
un tas de choses qui sont sorties.
Ouais. Beaucoup de choses, effectivement. On va passer au thème numéro 2, si vous le voulez bien. Et n'est-ce pas, ça va être avec qui? Avec Thomas, n'est-ce pas, qui va nous parler de...
Assassin's Creed Odyssey, une fois de plus.
Exactement.
Vous pensiez que c'était terminé? Bah non.
Et ça continue encore et encore. Exactement.
Alors c'est pas que le début, parce que là on est un peu au milieu des différents épisodes qui vont sortir en DLC. On avait rappelé à quel point on n'avait pas été super fan de la première trilogie de DLC qui s'attardait sur les héritiers de la lame.
Oui, t'étais pas très, très fan, effectivement.
Voilà, qui avait, sans spoiler, opté pour des choix scénaristiques extrêmement discutables et surtout imposés. Là, en l'occurrence, on repart sur complètement autre chose. Cette fois-ci, c'est le premier épisode du Sort de l'Atlantide qui vient de sortir, un épisode qui s'appelle Les Champs de l'Elysée.
Tout à fait.
Évidemment. Puisque comme pour le deuxième DLC d'Origins, Ubisoft a décidé de jouer la carte du fantastique, du divin, puisque vous allez techniquement en fait être téléporté aux Champs-Élysées, donc panthéon d'une partie des dieux de la Grèce antique. Et bah, ça permet une fois de plus de partir un peu dans tous les sens, hein. Le DLC commence, c'est très terre à terre, on alterne entre Layla et Cassandra ou Alexios, donc Layla, le personnage qui se situe au temps présent, qui va, on va dire, explorer un petit peu quelques endroits cachés pour finalement permettre à Cassandra ou Alexios d'ouvrir enfin les portes de l'Atlantide. Ça va évidemment parler aux fans, donc on rencontre les Isu, on rencontre des personnages dont on nous parle depuis les débuts de la série, et on part ensuite, bah, comme vous le voyez sur les images que Poufy est en train de vous diffuser.
Il diffuse rien là pour l'instant.
Aux Champs-Élysées.
Ouais, si, ça y est, il diffuse.
Et là, bah, comme l'année dernière avec Origins, bah, c'est magnifique.
C'est le paradis terrestre.
On arrive dans un endroit vraiment divin, surréaliste, et le jeu profite en fait de ce côté un petit peu irréel pour changer pas mal de choses. Déjà pour changer son level design, qui du coup n'a pas à être forcément très cohérent sur le plan géologique, etc. Donc on a un level design très vertical, on est dans une zone qui est assez resserrée, qui est toute ronde, divisée en quatre régions différentes, mais où on va explorer les choses d'une manière vraiment, vraiment différente pour Assassin's Creed Odyssey, et très intéressante. Et surtout, le jeu vous laisse une grande liberté dans la manière d'avancer. Vous avez évidemment un système de quête, hein, qui est toujours là, vous avez toujours ce système de choix au niveau des dialogues qui vont avoir des conséquences sur le déroulé de l'aventure, ce genre de choses, mais le jeu nous offre beaucoup de liberté pour mener à bien en fait ces différentes missions. On va rencontrer Perséphone, on va rencontrer Hermès, qui va devenir ou pas un allié, un ennemi. Et c'est visuellement très marqué puisque vous êtes face à des dieux grecs qui sont donc beaucoup plus grands que vous. C'est comme bah c'est comme non. Quand on met Camille à côté de moi, Camille fait une tête de plus. Bah là c'est un petit peu pareil quand on rencontre Perséphone au tout début.
Ah, le plus petit monsieur.
Elle fait une tête et demie sinon deux de plus que Cassandra et Alexios. Donc il y a visuellement quelque chose de très différent, de très marqué.
De très divin.
Et tu rencontres quand même aussi des héros grecs classiques genre Ulysse.
Non, ils sont tous morts.
Après, il y a deux épisodes encore qui vont suivre autour de l'Atlantide, donc
ça va arriver sans doute.
On rencontre des bêtes un petit peu mythologiques aussi. On peut les chasser, comme dans le deuxième DLC d'Origins.
Oh, ça craint.
Et j'ai vraiment passé un excellent moment sur ce DLC.
Quand t'as maté la chance.
Il est très conséquent.
Ouais.
Alors vous le voyez plus. Il est. Ah ouais. C'est.
Faut rappeler que c'est un DLC gratuit. Hein.
Alors pas du tout.
Non.
Pas du tout. Ça fait partie.
Faut rappeler que c'est pas un DLC.
Faut rappeler que c'est pas un DLC gratuit. Vous pouvez l'acheter à l'unité. Il fait partie du Season Pass si vous l'avez.
Ah c'est ça, du Season Pass. C'est pour ça que tout à l'heure dans la vidéo j'ai vu Free Content. C'est pour ça que ça m'a paru bizarre.
Ah il est gratuit si t'as acheté le Season Pass. Voilà. Sachant que c'est le premier chapitre d'une série de 3, une fois de plus.
Tout à fait.
C'est au bas mot, une bonne dizaine d'heures de jeu
donc
pour
ça
en voir le
bout. Quand même le coup là.
En termes de mécanique, c'est très intéressant. Alors là pour le coup, si vous avez fait les précédents DLC, vous savez qu'à chaque fois il y a une petite capacité qui se rajoute. Là c'est différent puisque c'est exactement ce que Poufy est en train de vous montrer. Il faut aller trouver ces capacités qui sont cette fois-ci cachées en fait dans des espèces de grottes. C'est pas quelque chose qui se débloque avec simplement de l'accumulation d'expérience. Donc il y a aussi une petite dimension de chasse au trésor.
De cache-cache.
Vous profitez en plus d'un certain item pour que je ne vous spoilerai évidemment pas pour utiliser on va dire les gardes à votre avantage. Bref, il y a plein de nouvelles choses qui se rajoutent dans ce DLC. L'environnement est vraiment somptueux, on rencontre des personnages qui sont très intéressants. Il y a une fois de plus un impact des choix que...
Il y a un chien,
il y a un dogo qui est immense puisqu'il est à la taille de Perséphone, donc il est forcément ultra balèze.
1m50 au garrot.
Et très gentil. On le rencontre dès qu'on arrive aux Champs-Elysées, le chien est là et vient. C'est lui qui te repère en fait.
10 sur 10, Game of the Year.
Voilà.
Il est très aimable ou pas?
Ça, c'est la séquence d'introduction justement. Et vraiment, si vous avez aimé Odyssey, c'est plein de nouvelles choses qui prolongent et qui développent un petit peu le gameplay. Une architecture vraiment très différente et ça se justifie parce qu'on est dans quelque chose de surréaliste. Des nouveaux ennemis, ceux que vous voyez en fait, vous avez évidemment des phases d'infiltration avec des soldats, on va dire lambda. Mais à partir du moment où vous faites repérer, en fait, ils en appellent justement au Izu. Qui vont sortir un petit peu de leur stase pour venir vous attaquer. Ce sont des ennemis qui sont évidemment beaucoup plus difficiles à défaire, qui vont se téléporter, qui vont vous tirer dessus à vue. Bref, il y a plein de nouvelles choses qui viennent de manière assez intelligente proposer un complément d'expérience. Et vraiment, autant on s'était quitté sur une note assez mitigée, voire négative, à la fin du premier arc des 3 DLC qui étaient sortis précédemment, là, on repart sur quelque chose de très engageant. Et vraiment, j'ai passé un excellent moment dessus. La pratique du DLC en soi me pose un petit peu problème philosophiquement parlant.
Mais là,
si vous avez aimé Assassin's Creed Odyssey, c'est quasiment indispensable de tenter l'aventure des Champs-Élysées.
En plus, t'as le Sphinx
en plus, t'as peut-être pas
personnage.
L'impression quand tu joues à ça que c'est du contenu qui a été volontairement retiré de la campagne principale. Pour en faire du DLC.
Non,
à
parce
part,
que le jeu de base est tellement dense, tellement vaste.
Je pense que s'ils avaient laissé ça dedans, ça aurait été.
C'est pour ça que c'est peut-être moins difficile d'en avoir après ce DLC-là que d'autres où tu peux vraiment sentir que ce sont des trucs qui ont été mis de côté spécifiquement pour. Ouais, il y a un chien, c'est formidable. Mis de côté spécifiquement pour t'inciter à repasser à la caisse ensuite. Là, c'est vraiment un truc en plus. Mais j'ai retrouvé des vieilles déclarations d'Ubisoft, enfin de Yves Guillemot, je crois, l'année dernière, où ils expliquaient qu'il n'y aurait pas de nouvel Assassin's Creed cette année et que justement à l'inverse il y aurait,
les remplaces,
il y aurait des contenus plus riches
bah oui.
pour celui-ci
parce que
pendant toute l'année
Odyssey,
parce que c'est une dizaine d'heures à chaque fois pardon.
Oui alors ça présage pas évidemment
de
deux prochains chapitres mais en tout cas
mais
celui-ci
fort,
est vraiment conséquent.
Et qu'est-ce que c'est beau putain la vache
et
alors, à la limite moi je trouve ça beaucoup plus beau que le jeu original entre guillemets quoi.
Alors il y a eu une grosse
mise à jour
il y a peut-être un ou deux mois.
D'accord.
Qui techniquement a propulsé le jeu vraiment très très haut par rapport à ce qu'il était avant, même sur FAT. Je joue sur FAT à la maison et le jeu est quand même somptueux, il est très fin, il y a une gestion des couleurs, vous voyez,
c'est beau, là,
c'est magnifique et ça bullshit pas pour le coup. J'ai pris pas mal de photos pendant que je me baladais
dans les plaines des champs. Non, t'as pas joué en 4K.
Non, j'y joue pas en 4K du tout et pour autant c'est
vraiment, déjà, c'est super beau quoi.
Vraiment magnifique. Donc je ne peux que vous le conseiller si vous avez avez aimé Assassin's Creed Odyssey, c'est vraiment un super chapitre supplémentaire à découvrir.
Ouais, ça donne envie.
Avec voilà, un prolongement de tout ce qui fonctionnait bien dans le jeu principal et des enjeux scénaristiques. Voilà,
oui, c'est cohérent, c'est logique.
Qui propose autre chose.
Même si ça part dans un autre truc.
Oui, bah, tu vas discuter avec des dieux à partir du moment où tu acceptes ce principe-là. Tout va bien. Sachant que, juste pour finir, si vous n'avez pas fini l'arc de l'Atlantide dans l'aventure principale, il faut quand même s'en méfier parce que ça spoil méchamment la fin en termes de continuité. Ah oui. Ça se situe vraiment après l'arc de l'Atlantide qui est un petit peu vraiment le bout du bout de l'aventure d'Odyssey. Donc mettez-le de côté si vous avez envie d'y jouer. Finissez d'abord l'aventure principale, sinon vous allez gentiment vous faire spoiler la fin du jeu. Voilà. D'accord. En tout cas, pour tout le reste, c'est vraiment du très très bon.
Parfait, parfait. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Assassin's Creed Odyssey, les champs d'Élysée.
Pourvu que ça dure.
Mais ce n'est pas tout, parce que Assassin's Creed, il y a encore un truc.
Et on va passer sur un truc vachement moins bon pour le coup.
Non,
ah non, merde, excusez-moi.
Mais non, non,
on a pas fini avec Assassin's Creed.
Excusez-moi, je pensais qu'on changeait de thème. Oui,
non, pas encore.
J'ai tellement hâte d'y venir.
Voilà, que... exactement. Ouais, mais t'inquiète pas, t'auras l'occasion de faire tiep. Donc oui, Thomas, on va parler.
Parce que, comme on le disait, comme le rappelait très justement Romain, a priori, pas de nouvel épisode d'Assassin's Creed cette année.
Voilà.
Par contre, il y a eu
des rumeurs bizarres
cette semaine, voilà, une espèce de fuite sur un nouvel épisode qui serait, lui, pour le coup, prévu en 2020, sur PS5 et sur Scarlett.
Entre autres, ça serait cross-gen, en fait.
C'est et qui s'appellerait...
Oui, tout à fait. Ah, bah, tant qu'à faire,
ouais, le nom de code, ça serait Assassin's Creed Kingdom, et le titre du jeu serait Assassin's Creed Ragnarok. Donc, le Ragnarok, on sait que c'est la chute du monde des dieux d'Asgard, des divinités nordiques.
C'est leur apocalypse,
donc, ça, voilà, ça indiquerait en gros que ce nouvel Assassin's Creed... se déroulerait dans le monde le monde nordique en fait dans les on changerait complètement d'ambiance
et de mythologie
de mythologie.
Alors photo vraie, fausse, info intox, fake news.
Alors j'ai vraiment avant
on les diffuse à l'écran là
avant
pour ceux qui peuvent regarder.
De partager ça avec vous, j'ai vraiment regardé le truc et les commentaires, les avis des gens à droite et à gauche pour savoir comment était interprétée, comment était accueillie cette fuite entre guillemets.
Cette fuite en avant.
Comme toujours avec ça, il y a des gens qui crient au fake, il y en a d'autres qui pensent que c'est plus crédible. Alors ce qui peut faire douter, c'est que visuellement ces photos volées sont très moches.
Ouais, ça fait version alpha. Hein.
Voilà. C'est basique et cubique.
Pré alpha.
Alors on sait que les précédentes fuites d'Assassin's Creed, les graphismes étaient un peu plus avancés que ça, mais en général, elles arrivent pas aussi tôt avant sortie du jeu.
Ça me choque pas les graphismes comme ça. Mais on a déjà vu des jeux
de développement. De toute façon, c'est des trucs de préparation quoi.
Surtout qu'on est au moment où ça... Oui, non, on est début mai. Le jeu serait pour l'automne 2020. Donc, on est quand même longtemps avant la sortie. Donc,
mais attention, ça, c'est peut-être des trucs qu'ils ont fait il y a 6 mois sortent maintenant.
Et on sait aussi que quand les développeurs font des présentations en interne pour montrer leur niveau d'avancement, parfois, ou pour juste montrer des idées, tu vois.
Bien sûr, genre, juste des croquis, des machins, des
petites
détails,
idées. Ils font des versions pas avancées du
moche.
Tout et assez moches pour pouvoir se concentrer sur un point précis et montrer une idée.
Exactement.
Ton habillage graphique, tu le bosses à la fin généralement. Une fois que tes mécaniques sont en place.
Oui, les systèmes de jeu d'abord.
Voilà, que tes collisions sont bien foutues, etc. Et il y a un truc qui allait un petit peu dans le sens de cette fuite, c'est qu'il y a quelques semaines, on a repéré dans The Division 2 un indice qui laisserait justement penser qu'on allait vers de la mythologie nordique.
Un indice chez vous.
Ça irait globalement dans le même sens.
L'élément en plus qui a été confirmé par Jason Schreier de Kotaku, qui lui sait tout sur tout. Hein. Pour le coup, lui, quand il dit ça c'est en cours, c'est que c'est vrai.
Bah, si il dit deux jours avant, moi je peux le faire aussi.
Le mec, non, mais le mec, il a énormément de contacts. Et ces scoops se sont confirmés les uns après les autres jusqu'à présent.
C'est investigation.
Le mec, il a quand même donné les détails de Google Stadia le matin de la présentation, tu vois, genre avant l'ouverture de la conf de Google. Enfin bref, c'est qu'un exemple.
Il a ses taupes un peu partout.
Et donc, oui, il y a beaucoup de choses. J'ai pas pris le détail de cette fuite, mais ça parlait donc des divinités nordiques. Une map qui regrouperait plusieurs pays, dont déjà toute la Grande-Bretagne, la Norvège, la Suède, enfin bref, ça serait une map, le Danemark, je crois, enfin je me rappelle plus
les
détails.
La Grande-Bretagne aussi.
Ouais, apparemment il y avait la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne aussi.
C'est que les roues là-bas, ils viennent justement du nord.
C'est vrai. L'Islande, elle serait prévue en DLC développé par un studio à part. Il y aurait pas mal de mécaniques qui seraient reprises de ce qu'on a pu voir déjà
dans Odyssey,
par exemple. avec les systèmes
qui reprend lui-même des mécaniques d'Origins.
Voilà, en fait, la map serait découpée en plusieurs territoires, on va dire, et donc avec des systèmes de conquête et de guerre de clans, etc. Donc un truc assez classique à ce niveau-là. Apparemment, en fonction de la tenue, vous pourriez déjà changer la tenue du héros à la volée. Et en fonction de la tenue que vous portez, ça pourrait faire monter ou baisser votre avis de recherche, un peu comme
genre camouflage, un peu.
Ouais, voilà. Et vous permettre aussi de gagner pas en influence, mais d'être mieux placé dans un territoire plutôt que dans un autre. Le grosse importance aussi sur le système de crafting des armures. Enfin, d'après la fuite, là encore, on ne sait pas si ça sera vrai ou pas.
Spécule, évidemment.
Voilà.
Spéculos.
Là, je vous fais tout de mémoire, donc c'était.
Ça sent les DLC, je crois, avec les armures.
retour de la coop aussi, mais ça serait surtout dans la phase d'exploration et dans les quêtes annexes. Si Poufy, tu pouvais afficher la news sur l'écran, ça m'aiderait bien s'il te plaît.
Au lieu de mettre.
La news, de toute façon, vous pouvez aussi aller la consulter.
Oui, bien sûr. C'est celle avec Thor, là.
Elle est très riche en infos.
J'ai fait un montage, il n'y aura pas le Thor des films Marvel dans le truc.
Bah, si, en DLC,
tu peux me mettre le déroulé en dessous, les points, voilà.
Un système de conquête à grande échelle.
Donc oui, voilà, système de colonies. Donc les pays, ça sera la Grande-Bretagne, le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande.
Quelle classe.
Donc le territoire découpé en colonies,
en Suède,
comme je vous le disais. Les colonies seraient en partie personnalisables avec un système d'économie in-game. Système de conquête à grande échelle. Les batailles navales aussi, ça me revient. Seraient toujours là, mais revues un peu à la baisse. Parce qu'ils voudraient principalement mettre l'accent sur l'exploration. certains points d'intérêt sur la map ne seraient pas... indiqué explicitement avec des points d'interrogation. En fait, c'est pour pousser les gens à explorer, à aller chercher du loot par eux-mêmes.
Ça va dans le sens de ce qui a déjà été fait avec Odyssey.
Voilà,
c'est un tout petit peu paradoxal, le coup des batailles navales, parce que dans la news que tu avais faite justement à ce sujet-là, tu précisais aussi que c'était Ismail qui revenait à la direction, sachant qu'il a déjà réalisé le 4, Black Flag, qui est vraiment porté sur l'exploration navale, et Origins, qui le remettait justement un petit peu sur le devant de la scène. Donc là, ce serait un petit recul de ce côté-là.
Donc voilà, je vous disais aussi, le DLC en Islande, ça serait, il serait pour le coup développé par Ubisoft Sofia, alors que le gros du jeu est toujours lié à Ubisoft Montréal, studio historique de la licence Assassin's Creed. Les mécaniques de RPG aussi, ainsi que l'aigle, seront de retour dans le jeu. Évidemment. Apparemment, le lore lié aux Isus serait un peu mis en retrait, il serait toujours là mais un peu plus en retrait dans ce nouvel épisode. Il y aurait quand même par exemple des liens à la mythologie nordique. D'après la fuite, on vous demanderait à un moment de récupérer Mjolnir. Donc Mjolnir, c'est le marteau de Thor. Et désolé, je parle.
Moi, quand j'étais petit, je disais Mjolnir.
Mjolnir.
Quand j'étais petit, quand je disais l'étrange, je disais Mjolnir.
Mjolnir. Ben dans le film Thor, il y a un des personnages qui n'arrive pas à prononcer Mjolnir, qui dit Mia Mia.
Miam miam.
Donc oui, dans le DLC d'Ubisoft Sofia, il y aurait aussi le des trucs en rapport avec Yggdrasil. Je sais pas si je le prononce bien. Vous savez, c'est l'arbre monde avec les différents royaumes, Midgard, Asgard, etc. Donc oui, accent sur l'exploration, coop, ça je vous l'ai dit, cross-gen, ça aussi j'ai dit, hein. Donc ça serait donc fin 2020, mais ça sortira à la fois sur PS4, Xbox One,
je crois que maintenant tout ce qui sort en PS5, 2020, mon ami,
oui, voilà, PS5, Scarlett et PC. Donc possibilité de changer de tenue, accent sur les armures. Donc oui, c'est un leak assez détaillé. On sait que par le passé, mais des leaks sur Assassin's Creed, il y en a eu pas mal
presque
de vrais.
Chaque fois.
Alors soit c'est trop beau pour être vrai, soit c'est vrai.
Alors il y a eu des choses fausses aussi par le passé, mais en tout cas, on semble vraiment se diriger vers un prochain épisode dans la mythologie nordique. Ça semble assez crédible pour le coup.
Et puis après, ils auront tout fait en fait, non?
Ah, ils voulaient faire Rome aussi pour.
Ah oui, donc peut-être Rome.
Bah, il faudra en faire dans le futur après. Et
le Japon médiéval aussi, c'est beaucoup demandé par la communauté.
Ah oui, c'est vrai que ça longtemps déjà qu'ils en parlaient.
Ça fait des années et des années que les gens réclament effectivement.
Tu regardes, c'est comme pour Forza. Les gens veulent un Forza Horizon au Japon, ils veulent un Assassin's Creed au Japon et les développeurs ne le font pas. Vous voulez ça? Bah non,
et
vous
l'aurez
faire
pas.
Ça.
C'est nous qui décidons.
Il y a déjà eu Syndicate en Grande-Bretagne pour Assassin's Creed, donc ils pourront pas faire le coup de Forza.
Oui, c'est pas vrai, mais ils peuvent toujours trouver un autre truc.
Alors que pourtant, la campagne anglaise.
Les divinités indiennes. hindou.
Ah ouais.
Genre avec Ganesh.
C'est déjà été fait en Inde. Yuen a son
en Inde. C'était un spin-off.
C'est des spin-off. Ils l'ont quand même exploré l'Inde.
Mais de moindre envergure. Tu vois, t'as pas eu de monde ouvert.
Et Uncharted, mais sinon.
Après, les mythologies, c'est que depuis Origins, qui sont partis justement dans le surnaturel. Avant ça, on restait sur quelque chose entre guillemets de plus terre à terre.
Entre guillemets. Tout à fait.
Tu vois ce que je veux dire ?
Avisus, tu connais ?
Ou pas.
Voilà, elle était dans le jeu. Et bien, parfait pour ce thème numéro 2. On en vient au thème numéro 3. Cher. À Romain, n'est-ce pas, qui n'en pouvait plus d'impatience.
C'est un peu cher à tout le monde, je pense.
Voilà.
Hein, c'est...
Donc, Sonic the Movie.
Un peu cher, même.
Enfin, voyons.
Alors, on avait eu des, il y a quelques mois, une fuite, enfin plusieurs fuites d'images révélant le design de Sonic.
On disait non, c'est pas possible, mais en fait, si.
C'est trop chum.
La semaine dernière, quand Paramount a diffusé la bande-annonce, on a eu la confirmation que le design c'était bien celui-là. Donc, c'est Sonic avec des bras bleus entièrement, pas de gants, mais des poils blancs sur les mains. Une carrure
et une tronche.
Une tronche un peu bizarre et une carrure bobine. Pour le moins particulière. Moi, quand la petite séquence qu'on vient de voir là, quand il s'étire,
quand il fait ses assouplissements,
moi j'ai l'impression de voir un enfant nu en train de s'étirer au milieu de la route. Hein. Moi,
il y a des longues, trop longues jambes.
On dirait pas du tout une créature ça fait trop bizarre.
Bah ouais, ils ont.
C'est trop humain quoi. Enfin,
ils ont essayé de rendre le truc très réaliste et ça va pas du tout avec Sonic. Donc, Jim Carrey en Dr. Robotnik. On voit dans la bande-annonce qu'il va y avoir une évolution physique, je pense plus il tombe dans la folie plus il va se
rapprocher, se transformer du personnage.
Et en fait je pense que tout le monde est d'accord pour dire jusqu'à présent
que Jim Carrey,
que
ça
le
va.
Seul truc qui sauve le
c'est
film
un
peu c'est les mimiques, le côté grand clown de Jim Carrey, parce que design de Sonic ça va pas du tout, l'écriture des dialogues pour l'instant c'est pas très réjouissant,
c'est catastrophique
non plus.
Puis ça les dents quoi, mais
en fait ouais, voilà, et ça c'est un des gros problèmes de Sonic aussi, c'est les dents.
C'est ses jambes, là, c'est qui me choque.
Mais
moi.
Oui,
il a des jambes beaucoup trop longues en fait,
il est trop grand, enfin il est trop grand, sa morphologie est trop fine.
Ouais. Et donc,
il sort cette musclée quoi. Enfin,
mais surtout, il ressemble pas du tout au personnage de Sonic.
Après,
en fait.
il y a eu plusieurs Sonic au fil du temps. Le premier était plus court sur pattes et chubby, donc avec un peu plus rondouillard aussi.
Bah, moi, je préfère,
niveau du visage, tout le monde préfère. Ouais. Après, avec Sonic Sonic Adventure,
oui,
Sonic s'est
allongé.
Les jambes se sont allongées.
Un peu plus comme ça, là, c'est vraiment...
Avec Sonic Boom, mais ça, Sonic Boom, on n'a pas trop envie d'en parler. C'est encore pire. Il est encore plus long, long et fin.
Plus longiligne.
Ah oui, on a vu aussi que les anneaux de Sonic dans le monde du film servent un peu de portail
dimensionnel,
de portail à la manière des anneaux magiques de Doctor Strange ou des
oui, mais il y a des zones bonus qui permettaient de le faire à la limite, pourquoi pas.
Et donc rejet quasiment total du trailer. J'avais jamais noté parce que j'ai mes fiches devant moi. Quand j'ai fait un check des vues sur le trailer officiel américain sur YouTube, il y avait 271 000 pouces en l'air pour 450 000 pouces en bas.
Pouces négatifs. Ah ouais,
donc
ça fait mal au cul, ça. Parce que c'est quand même rare. Hein.
C'était pas du tout bien vu. Donc Yuji Naka, donc co-créateur de Sonic, qu'on présente souvent comme étant le père de Sonic, alors qu'il est loin d'avoir été seul. Déjà, le design de Sonic, c'est pas de lui, c'est surtout le game design pour le coup et le gameplay.
Est parti dans une forêt japonaise s'enfermer.
Lui, il est plus chez Sega depuis des années, maintenant il est chez Square Enix, mais il commente quand même beaucoup l'actualité autour du film. Il dit: je l'ai regardé, les parties durant lesquelles Sonic bouge ne posent pas de problème, mais. Il se demandait à ce moment-là: que penserons-nous quand on verra le film en intégralité pour lui. Donc Sonic en mouvement ça passe, mais c'est quand il est à l'arrêt,
ça veut pas du tout.
Et c'est une des personnes à s'être exprimée au sujet de manière négative, même si c'était assez mesuré. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé, et ça a tellement fait parler et en mal que Jeff Fowler, donc 24 heures après, le réalisateur du film, a dit merci pour votre soutien et vos critiques.
Et surtout vos critiques.
Le message est clair et net: vous n'êtes pas satisfait du design et vous désirez des changements. C'est ce qui va se produire. Tout le monde chez Paramount et Sega sont totalement dédiés au but de montrer le personnage à son meilleur. Et donc on peut s'attendre dans les mois à venir à un changement de design de Sonic.
On va faire travailler les petites mains pour modifier le design du personnage.
Voilà, le truc c'est que Sonic Le film sort aux États-Unis le 8 novembre prochain.
Ouais.
Chez nous, c'est en février, donc c'est d'ailleurs c'est assez étonnant.
5 février, je crois.
C'est étonnant encore en 2019-2020 avoir 4 mois d'écart entre la sortie américaine et ça se faisait plus trop.
Ça n'arrive plus en fait.
Ouais. C'était assez rare. Mais
en fait, il va sortir en Blu-ray en Amérique quand on l'aura au cinéma ici. Quoi.
Ah bah ils auront en Blu-ray que nous on l'ait au cinéma, c'est sûr. Mais donc c'est ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, voilà, il y a les artistes, les chara-design, etc., qui vont devoir rebosser d'arrache-pied
avant la sortie.
Et ensuite les animateurs, et ensuite intégrer le film. Bon, l'avantage, c'est que le personnage est intégralement en image de synthèse, plus facile à intégrer dans le film. On a vu, par exemple, dans des bandes annonces de films Marvel, des personnages qui étaient tout simplement retirés des bandes annonces pour pas gâcher la surprise, et des scènes totalement modifiées
ça c'est faisable effectivement.
Après, il y a quand même c'est pas aussi simple que de juste changer le personnage parce que il y a une carrure. Les acteurs qui feront face à Sonic devaient regarder à un certain niveau,
les angles de caméra qui ont été choisis par rapport au personnage aussi.
Donc, il va falloir qu'ils modifient tout.
Je pense que le Sonic qu'on aura définitivement sera, en termes de taille, sera similaire à celui-là. Ils vont peut-être changer un peu sa carrure. Je pense changer son visage.
Faut muscler ses jambes déjà. C'est bien.
Son visage surtout, grandement. Beaucoup. Mais donc oui, c'est un peu une situation jamais vue. Genre une bande annonce
à quelques mois de la sortie,
une bande annonce qui est rejetée comme ça et qui nécessite des changements massifs de dernière minute.
Ils
c'est
ont
un
jamais
peu...
le temps de pouvoir faire ça.
En même temps, il faut m'expliquer qui pensait honnêtement dans les décideurs que c'était une bonne idée d'opter pour ce design-là, parce qu'on est tellement éloigné du personnage, le design fait tellement tiep que les gens qui pensaient bien faire en partant là-dedans, ils n'ont jamais joué à un jeu de la série.
Ils sont censés avoir affaire à des spécialistes quand même.
Moi,
l'impression que ça donne.
Devais faire une supposition là-dessus, je dirais que le Sega s'est totalement fait embobiner par Paramount.
C'est plus fort que toi.
Je pense qu'ils n'ont pas laissé la main à quelqu'un. Ils ont pas. Tu vois, par exemple, si tu ajoutes dans Les Mondes de Ralph, tu sais, le film d'animation de Disney. En fait, c'est un film d'animation.
J'ai pas vu le 1.
Je connais le
nom. Et donc, ça se passait dans le monde du jeu vidéo et il y avait plein d'apparitions de personnages célèbres du jeu vidéo, et dont Bowser, par exemple. Et le truc avait été supervisé par Nintendo. Ta validation obligatoire et contrôle pointu de l'apparence et de la manière de se comporter,
même de sa
bouger
taille et tout ça par rapport aux autres, etc.
Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu cette validation chez Sega. J'ai l'impression que c'est Paramount qui a tout géré. Et en fait, je les imagine envisager ce film-là avec une mentalité des années 90. Tu vois, genre,
c'est ce qui ressort du trailer.
On va vous l'intégrer dans le monde réel, on va le rendre réaliste, plus extrême, plus couillu, plus grande gueule, etc. Alors que Sonic est déjà grande gueule de base, mais vouloir absolument le rendre réaliste et l'intégrer dans le monde réel avec une apparence qui va avec. Mais pas de chance pour le film, sa promo tombe en même temps que celle de Détective Pikachu qui montre clairement que tu peux intégrer un design fidèle au jeu vidéo dans un monde réel sans que ça choque pas.
Ouais, tout à fait.
Les Pokémon de Détective Pikachu, enfin moi j'ai pas encore vu le film, mais
je vais le voir aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, le jour du podcast.
Ah oui, d'après les bandes annonces, ça colle super bien quoi. Ouais. Pika.
Il est trop mignon quoi.
Le petit Pikachu.
Et il est logiquement fait.
Ils ont ajouté de la fourrure, évidemment des textures réalistes, mais en termes d'apparence et de chara-design, ça a pas bougé.
Bah bien sûr.
Et ça marche parfaitement bien
avec tous les Pokémon qu'on voit dans les premiers trailers.
Ouais, voilà.
Tout a été bien pensé.
Exactement.
Et donc pour le coup Paramount se retrouve un peu con avec ça et j'ose espérer que le changement de design qui va être fait sous la supervision sévère de gens de chez Sega.
Parce qu'en général les Japonais, ils sont quand même très très regardants sur tout ce qui leur appartient, tout ce qui concerne ce genre de choses.
Oui, puis là, c'est une grosse licence en plus. Donc
c'est leur plus grosse licence.
Bah oui.
Sonic, c'est la poule aux œufs d'or. C'est la poule aux œufs d'or de Sega et de loin, tu vois.
Mais du coup, il y a un enjeu pour Sega aussi parce que le bad buzz autour du film, mine de rien, il est en train de pourrir, si besoin il y avait, de pourrir encore l'image de Sonic, qui n'est pas forcément très reluisante en fonction des épisodes. Donc il y a un dégât collatéral potentiel là qui se présente.
Je pense pas que ça aura un impact. Sur la popularité des jeux, je pense, parce que les jeux Sonic,
c'est plus de la moquerie, des choses comme ça.
Les jeux Sonic, même s'ils ne sont pas bons, parce qu'on en a eu quelques-uns de pas bons ces dernières années, ça se vend bien malgré tout, parce qu'en fait c'est principalement destiné au public assez jeune. Et d'ailleurs c'est un truc que je trouve triste, c'est que sous prétexte qu'on file ça aux enfants, qu'on leur file de la merde, c'est pas grave, tu vois. Mmh. Alors que les enfants ont aussi bien le droit d'avoir des produits de qualité avec des beaux designs. Et donc j'espère que ça va servir le.
Mais effectivement, t'as peut-être raison, c'est là qu'ils ont peut-être pas compris l'enjeu du truc, c'est que. T'as tous les trentenaires, les quarantenaires qui adorent Sonic,
bah oui.
qui vont forcément aller le voir.
Bah, Sonic,
donc
c'est une licence.
Ils vont y aller avec leurs gamins.
Vous pensez à Angel ? Qu'est-ce qu'il a pensé quand il a découvert ce trailer ?
Je pense qu'il est devenu fou.
Non, mais Sonic, c'est un personnage qui génère de la nostalgie maintenant.
Exactement.
Et tu vois, s'il y a des gens. Et c'est un peu pareil avec Détective Pikachu ou même Pokémon Go dans un registre différent. Le fait que ça arrive au cinéma. Ça remet le personnage face à des gens qui potentiellement ne s'y sont pas intéressés depuis longtemps, tu vois. Et ils ont l'impression que leur image nostalgique de Sonic est bafouée. Parce que tu vois, avec Détective Pikachu, il y a plein de gens qui n'ont pas touché un jeu Pokémon depuis 20 piges qui vont aller voir le film.
Moi, je ne suis pas fan forcément de Pokémon de base. Beaucoup plus de Sonic, et bah j'irai pas voir Sonic tel qu'il est là actuellement.
Bah oui,
c'est pas possible. J'irai voir Pikachu.
Et donc, Détective Pikachu, il y a des gens qui n'ont pas joué à un jeu depuis 20 ans, mais ça leur rappelle des souvenirs.
Exactement.
Et ça leur rappelle les souvenirs tels qu'ils. Enfin, c'est une image.
Tels qu'ils sont restés à l'époque,
etc. C'est une image cohérente avec le souvenir qu'ils ont des Pokémon, tu vois. Mm-hmm. Alors que là, Sonic, c'est pas du tout ça.
Ah bah
là, t'as l'impression que le.
Bah qu'ils ont cassé le truc, quoi.
Du film de jeu vidéo classique, tu vois. C'est encore Hollywood qui a mis ses mains sur
Du mauvais film de jeu vidéo tel qu'on le connaissait dans les années 90. Et l'écriture, les pseudo punchlines qu'on nous a balancées dans le premier trailer, elles font dater, mais comme c'est pas permis en fait.
Mais pour moi, j'ai l'impression de voir un film des années 90.
Bah oui, c'est l'impression qu'on a tout
qu'il y avait derrière, hein, je sais pas.
C'est mal fait.
Faire un film désuet.
J'ai même lu sur le net, il y a des gens qui sont déjà dans la théorie du complot en se disant il y a eu un bad buzz volontaire, le vrai design est prêt depuis toujours, et c'est une manière que la Paramount a trouvé pour faire parler un petit peu du film.
Bah pour le coup, il a fait
parler, c'est
sûr.
Je pense pas que la stratégie du bad buzz soit la.
Bah oui, parce que moi, j'irai pas le voir tel qu'il est là. J'irai pas le voir. À moins qu'il sorte un super trailer demain.
Ah non, c'est trop dur pour les yeux.
Il change tout.
Et le.
Là, je sais pas.
Comment dire. Ce que je voulais dire m'échappe. Mais le Sonic, ouais, c'est pas possible. C'est pas possible de se dire que en faisant ça, c'était une bonne. C'est une bonne stratégie marketing. Bah, d'ailleurs, que le réalisateur prenne la parole. Viennent désavouer le truc comme ça publiquement.
Oui. C'est qu'il y a un souci, quoi. Il avait pas prévu ça, je pense.
Ils ont tous pris de très mauvaises décisions.
Et c'est là où tu te rends compte que les mecs sont dans une bulle, en fait. Parce que pour moi, l'opportunité, inespérée qu'ils ont eue, et sur laquelle ils n'ont pas rebondi, c'est quand il y a eu la fuite des photos. Parce que là, ils avaient l'occasion de dire non, rassurez-vous,
ça sera pas comme ça.
Ça, c'était un truc temporaire, c'était une ébauche. Ils ont eu, ça c'était quoi, il y a deux mois, ça à peu près.
Ils en ont pas tenu compte du tout, ils en ont rien eu à foutre.
je pense que les mecs se sont dit non, mais quand ils vont le voir en mouvement, ça va tout changer, etc. Alors qu'en
va les enfumer.
Alors qu'en fait, ça a fait qu'aggraver le truc, quoi. Et c'est même pire quand tu le vois en mouvement que quand tu le vois sur les photos.
Ça a conditionné tout le monde à avoir un petit peu peur, et en fait, il se trouve qu'au vu du premier trailer, on avait tous raison de s'inquiéter.
Ah, ça y est, je me souviens de ce que je voulais dire. Quand j'ai vu la bande-annonce du film, ça m'a immédiatement, et j'ai vu sur internet que j'étais loin d'être le seul à penser
sur
ça.
Sur internet.
Ça m'a fait penser au film Super Mario Bros.
Oui. C'est pour ça que c'est un film des années 80-90.
Alors que le
film
Super Mario Bros, il est de 93. Ils avaient voulu, ils avaient eu une volonté de rendre l'univers de Mario réaliste. Mm. Donc ils avaient tout transposé dans un monde plus sombre et plus réaliste, etc.
Exactement.
Et sauf qu'on a vu à l'époque que
ça collait bien.
Non, ça a pas marché.
Ça a pas marché du tout.
Le film Mario, il a fait un
bide total.
Pas possible.
Moi, je l'ai vu, j'ai pas trouvé ça bidon, vraiment.
Moi, je l'ai vu petit et petit.
Tu vas voir Sonic aussi.
Tu l'as vu il y a longtemps aussi.
Moi, je l'ai vu petit et petit, t'aimes tout.
Peut-être que maintenant, je trouve ça pourri, mais.
Mais non, mais c'est vrai, hein, quand t'es petit, t'acceptes tout.
Oui. T'as pas les mêmes yeux.
Le film sort en 93.
Mais bref,
je devais avoir 7 ans au moment où c'est sorti. Pas trop exigeant, quoi, à ce moment-là. Mais ouais, Sonic, t'as l'impression qu'il a été fait dans le même moule. Mmh. C'est curieux. Et par contre,
l'armée américaine qui s'intéresse à Sonic, c'est vraiment risible.
Comme toujours. C'est des clichetons de merde.
Je sais pas si ça intéresse tant à Sonic qu'aux raisons de la surtension massive qu'il y a eu dans une. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait un. calcul. En fait, ils expliquent que la puissance de Sonic, enfin ce qu'on suppose être la puissance de Sonic,
ça a
provoqué une coupure d'électricité générale dans toute une région des États-Unis. Et il y a un mec qui a fait un calcul. Donc voilà, dans cette région des États-Unis, il y a à peu près autant de naissances par an. Et donc, dans les hôpitaux, t'as des enfants qui nécessitent des soins d'urgence à la naissance, genre la couveuse, etc.
Il y a eu 30 000 morts.
Donc, si tu calcules ça, tu remets ça à une journée. Dead. Il a dit voilà, Sonic a tué tant de bébés à cause de ce qu'il a fait. Donc Sonic est un génocide, un tueur de masse.
Oui, mais attention,
un tueur de masse d'enfants.
Sauf qu'il n'avait pas pensé au générateur de secours.
Oui, générateur de potentiellement.
Ils en ont tous des hôpitaux.
Générateur de secours. Mais bon, c'était assez marrant que le mec pense à.
C'était l'anecdote.
Pense à ça.
D'ailleurs, la scène, on nous la montre évidemment de nuit, parce que dans les films, il faut que ça arrive de nuit, sinon visuellement, ça parle moins au spectateur.
Toutes les lumières qui s'éteignent.
Tu ferais la même chose de jour, ça aurait moins de sens.
Ah bah, ça a moins d'impact surtout.
Alors que théoriquement, ça pourrait plus facilement arriver.
Et on voit aussi d'après le.
Il y a les pyramides.
Mais oui, c'est la référence à Stargate. T'as prévu avec l'anneau,
mais
machin,
tu sais que
tout
sur les affiches, ils ont diffusé plein d'affiches et j'ai l'impression que Sonic va aller dans plein de pays brièvement dans le truc.
Ah, c'est vraiment Stargate avec Sonic.
Tellement
quoi.
Il est rapide.
C'est n'importe quoi.
Mais t'as vu un moment, Jim Carrey, il met la main sur une des épines de.
Sur un poil,
mais là pour le coup, ça ressemble plus à une épine.
Ça, oui,
et visiblement, elle est chargée en énergie, tu vois. Et je me demande si c'est pas le fait de trop être en contact avec ça qui va faire perdre ses cheveux Robotnik et le transformer, etc.
Il va vouloir comprendre ce que c'est.
Enfin bref, pour en revenir donc au choix de changer de design,
la France a peur.
Ça crée un précédent quand même. Et curieusement, c'est Cory Barlog, le réalisateur de God of War, qui a soulevé ce point. Il n'a pas été le seul hein, pour le coup, mais lui, c'est peut-être le plus célèbre. Il dit « Je ne sais pas trop ce que je ressens vis-à-vis du fait d'avoir une démarche créative dans le monde actuel. Il est évidemment important de garder le pouls sur l'avis du public, enfin le pouls du public.
Mais c'est pas eux qui décident.
Mais cette situation, cela rend plus difficile le fait d'essayer quelque chose de vraiment différent. Quelque chose qui, de prime abord, pourrait donner l'impression d'un changement trop important, mais qui pourrait nous surprendre une fois le produit fini.
Enfin, il parle pour lui, là.
Voilà, non, mais je comprends.
Peut-être qu'il ferait pas son film God of War.
Non, mais je comprends totalement ce qu'il veut dire. Mais dans le cas de Sonic, c'est indéfendable.
Non, mais surtout, Barlog, il parle de sa version de God of War. C'est vrai qu'ils ont à peu près tout transformé dans le dernier épisode.
Ouais.
L'univers, la structure, etc. Là, c'est pas du tout la même chose. Le perso de Kratos, il était cohérent avec ce qu'on en connaissait. Là, c'est un personnage que tout le monde connaît, que tout le monde apprécie pour plein de raisons différentes, qui est travesti pour arriver au cinéma. Ça n'a rien à voir.
C'est un scandale. Je pense pas qu'il faisait directement référence à God of War. Je pense qu'il faisait.
Ah, c'est un politique, là. Il parle de lui.
Là j'ai l'impression qu'il.
D'une manière générale. Oui,
moi,
mais lui,
si, moi, je suis comme Thomas, j'ai l'impression qu'il se dit attends, moi, si je fais un film God of War, j'aimerais prendre des libertés aussi.
Oui,
donc,
mais surtout, je pense qu'ils ont dû faire face à pas mal de réticences pour accoucher du dernier God of War. Vraiment transformer tout ce qui faisait le cœur du gameplay, à mon avis, c'est ça qu'il évoque.
God of War, dès la première bande-annonce, le truc a été accepté à bras ouverts directement. Il n'y a pas eu de réticence.
Oui, mais il y a plein de changements à l'intérieur du jeu. Il a fallu les faire passer.
Mais ça reste du badass.
Il y a le gosse, il y a le changement d'arme, il y a le changement d'univers. Enfin, vraiment, je pense que ça n'a pas été forcément évident pour pitcher et faire accepter le pitch.
Enfin, il n'a pas fait un pump and click non plus, quoi. Tu vois.
Mais pour le coup, je pense que c'est une remarque sur la création de nos jours d'une manière.
Oui, et la dépossession.
Oui, d'une manière générale. Et c'est un problème qui s'est déjà ressenti. Par exemple, moi, j'ai backé sur Kickstarter le Baphomet 5.
Ah oui, Baphomet 5.
Et je trouve qu'ils ont donné beaucoup trop
Moi j'adore Baphomet 5, je sais pas ce que t'as avec Baphomet 5.
Bah, pour moi c'est pas un des meilleurs de la série, parce que je trouve qu'il y avait trop de fanservice qui était là mis aux choses.
C'est pour ça que j'ai adoré alors.
Non mais tu sais, par exemple, ils ont remis l'énigme de la chèvre alors que.
Oui, mais c'est clin d'œil ça dure 3 secondes.
Je trouve
rien.
Que c'est genre trop regardé. Elle est fan, elle regarde.
Ça dépend comment c'est amené, ça peut être fait avec plus ou moins de subtilité.
Et franchement, je trouve ça assez bien amené, mais bon après.
Et je trouve que c'est vrai que c'est risqué de nos jours de peut-être laisser trop d'importance à la vie des gens, parce qu'on sait que les gens prennent pas forcément le temps de réfléchir ou quoi que ce soit pour donner leur avis. Tout est dans l'instantané, tout est dans la colère.
Je suis assez d'accord. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Je sais, maintenant, c'est l'impression que c'est Twitter, les réseaux sociaux qui gouvernent tout ce que tu fais. Et gare à toi si tu fais une grosse merde, quoi. Parce
mais en, en l'occurrence, là, la vie.
Là,
de...
pour le coup, oui, on va dire qu'ils ont raison.
Voilà, la vie, la vie de Cory Barlog est totalement légitime, je trouve.
Et les guides,
mais là, Sonic est indéfendable, quoi. Tu peux pas voir cette bande-annonce en disant. Ah bah si, bah attends, je vais lui accorder sa chance parce que ça sera peut-être mieux dans le film final. Non,
il restera moche. Il y a des gens qui l'ont dit, hein, il y a des gens qui ont envie de le voir.
Camille, tu voulais dire un truc intense, c'est magique.
Je pense que la vie des joueurs, peut être pris en compte et plus pris en compte quand c'est quand il s'agit d'un Kickstarter puisque ou enfin d'un financement participatif, puisque de base tu donnes ta thune, donc t'as le droit d'avoir un avis et forcément t'as envie que le studio le prenne en compte et il doit le prendre en compte.
Bah, ça dépend ce qu'on te dit, enfin Ça dépend ce qui t'est promis à la base.
À l'origine,
c'est
oui,
genre quand tu mets 40 euros, oui, ça te donne le droit de mettre ton, de bien donner sûr. Ton avis et qu'il soit pris en compte pour le truc. Bien ok. Sûr. Mais si c'est juste, t'as mis 40 euros pour avoir la version physique au moment où le jeu sort, c'est pas la même chose, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Ça
mais...
te donne pas forcément le droit de t'impliquer
toute
dans
la légitimité,
dans...
n'est-ce pas.
Ouais, mais je pense que pour le financement participatif, les développeurs voient pas ça du même œil. Ils doivent oui, se dire aussi, ils nous ont donné de l'argent, on doit prendre en compte leur avis. Après, pour le film, c'est totalement indéfendable.
Bon, de toute façon, on verra ce qu'il en est dans quelques semaines, quelques mois.
Catastrophe.
Est-ce qu'ils vont changer des choses ou bien est-ce qu'ils vont rester sur.
Et ce qui est marrant, c'est le silence total de Sega.
Le silence des agneaux aussi. Ça se trouve, ils ont signé un truc comme quoi ils n'ont pas leur mot à dire. Hein.
Je sais pas.
En tout cas, que vous voulez, vous avez les free hands.
En tout cas,
mais
moi,
je sais que George Lucas et Star Wars, voilà. C'est ce qui s'est passé. Hein.
Oui, mais lui, il a vendu son truc.
Oui, il a vendu son truc, mais.
Bah, c'est normal. Ouais. Bah, imagine le mec il vend son truc, je sais pas combien de milliards.
Parce que là, Sega a pas vendu les droits. Sega a pas vendu les droits de Sonic. Ils ont plus ou moins loué son utilisation au cinéma. Tu vois, c'est pas pareil.
Bon, ils vont envoyer quelques Yakuza à la Paramount. Ça va être vite réglé cette histoire.
Non, mais en tout cas, moi, d'après ce que je sais, c'est que chez Sega Europe, ils ont tous été dégoûtés par le truc. Ils le trouvent tous immonde.
Ça se comprend. Les gens ont des yeux, quoi.
Ouais, voilà. Exactement. Mais après, maintenant, moi, je me demande comment ça va se passer. Est-ce que Sega va finir par prendre la parole à ce sujet? Parce qu'on sait que le compte Twitter officiel de Sonic, il est très rigolo. Tu vois, il y a beaucoup d'autodérision par moment sur Sonic, etc. Donc, est-ce qu'ils vont finir par
jusqu'à un certain point.
Est-ce qu'ils finiront par en jouer? Mais là, les enjeux financiers sont tels que je me demande que ça doit pas trop leur donner envie. En tout cas, hâte de voir le nouveau design qui va être donné à Sonic. Et est-ce que ça va suffire?
Il va être vert, en fait. Voilà, vous êtes content.
Non, mais aussi un autre truc, ça c'est une.
Putain, il s'arrêtera jamais sur Sonic.
C'est une dernière chose, une pure supposition. C'est la mode dans les films en ce moment, c'est de mettre un petit teasing après le générique pour teaser une suite ou un truc comme ça. Imaginez s'ils avaient prévu ça pour ce film-là avec genre un teasing de Tails ou de Knuckles ou un truc comme ça.
Tout aussi horrible. Mais les internautes l'ont déjà fait. Hein.
Obligés de les modifier, oui, avec des animaux en papier ou des trucs comme ça.
Il y en a eu plein. Ouais.
Et ils vont être obligés de les modifier aussi. Et ça, on sera jamais au courant.
T'as vu 760 miles par heure, Sonic, quand même. Il est super, super, super rapide. Voilà, bah, je crois qu'on a.
Plus rapide que moi, plus malin, plus rusé, il y en a pas.
Exactement. Voilà. Merci pour cette phrase iconique.
C'est le générique du dessin animé de Sonic.
Et nous allons passer tout de suite après ce thème fort intense sur Sonic. Nous allons passer à
l'anniversaire. Tu flippes, hein.
Non, je voulais que tu finisses la phrase.
C'est vrai.
Et quel anniversaire?
Quel anniversaire
20
d'ailleurs,
ans aujourd'hui.
C'est pour ça qu'on a Street Fighter derrière. Hein,
exactement, vous le voyez si vous êtes premium.
Sur la borne.
C'est Street Fighter 3 Third Strike qui tourne sur notre chère borne d'arcade.
Tout à fait.
Et que Poufy est en train de vous diffuser également, puisque on va fêter là dans quelques jours les 20 ans de la sortie en arcade du fabuleux Third Strike qui est sorti le 12 mai 99, très exactement.
C'est vrai, à quelle heure?
Dans les salles obscures. Oh bah, je pense à l'ouverture, hein. Tu sais, au Japon, t'as des salles qui sont ouvertes un petit peu.
Des 6 heures du mat.
Donc voilà, 20 ans de Third Strike et on voulait revenir un petit peu dessus parce que
j'avais oublié
c'est...
à quel point il était aussi beau que ça.
Mais
je
voilà.
m'en souvenais plus.
C'est
pour
incroyable.
Moi, Third Strike, c'est un truc pourri.
Non, c'est
en
magnifique.
En fait, non, c'est magnifique.
Street 3, c'est le premier truc qu'on voit. Je l'ai relancé il y a quelques mois quand est sorti la compilation pour les 30 ans de Street Fighter. Mmh. C'est un jeu qui est à tomber par terre tellement il est beau, tellement il est fluide, rempli de détails. C'est vraiment quelque chose. En plus, pour l'époque, on est quand même déjà en 99, c'est déjà le règne des Tekken, des Soul Calibur, etc. Enfin, Soul Edge en l'occurrence. Et le jeu a tellement de qualité. Le problème, c'est que il a été pensé dès le départ pour les joueurs vraiment hardcore de Street.
Les vrais.
C'est des déclarations en fait qui reviennent souvent quand on lit des interviews des développeurs de l'époque. Eux, ils estimaient qu'on était à un tournant en fait au niveau des salles d'arcade japonaises. Les UFO catchers, les jeux de rythme, etc. commençaient à prendre beaucoup de place et commençaient à supplanter un petit peu le versus fighting. Et du coup, l'idée de Capcom, c'était de se dire, il faut qu'on pense aussi aux joueurs qui sont là, qui passent leur journée à saigner les mécaniques d'un titre, etc. Et donc, il faut qu'on leur propose quelque chose de vraiment profond et qui va demander beaucoup d'investissement pour être compris et maîtrisé. Et c'est cette philosophie qui a animé en fait le développement de Third Strike, qui est un jeu incroyable sur le plan technique, qui
c'est
demande
vrai.
Aussi un investissement vraiment, vraiment conséquent. Qui fait revenir aussi quelques personnages bien aimés de la série, comme Chun-Li par exemple, puisque vous avez la version Dreamcast là que je vous ai ramenée, qui met en avant Chun-Li, puisqu'elle était de retour dans cette troisième lecture de Street Fighter 3. Parce que l'idée de Street Fighter 3 au début, c'était de proposer un roster complètement nouveau, c'est-à-dire qu'aucun des personnages connus de toutes les versions du 2 ne devait être présent à la base. Alors on sait qu'ils ont rajouté Ryu et Ken au dernier moment, justement en craignant la réaction des joueurs face à un roster où ils ne connaissaient personne. Et puis au fur et à mesure, on a eu Goki dans le Double Impact, donc la deuxième version de Street Fighter 3, et Chun-Li là qui revenait, aux côtés notamment de Makoto, qui est un de mes persos préférés dans ce jeu, qui est revenu dans Street Fighter 4. C'est le premier aussi qui fait la part belle à un petit français. Avant le 4, je crois que c'est 12. Je ne me souviens plus de son nom, mais un espèce de grand gothique un petit peu bizarre. C'était le premier français de la série. Et là, vous voyez à l'écran le système de paris qui va évidemment trouver sa quintessence à la faveur d'une finale, la finale de l'Evo 2004, dont vous avez forcément déjà entendu parler.
Totalement mythique.
Qui est évidemment mythique, que vous soyez ou non fan de Versus Fighting. Vous avez forcément
versus Wong.
Vu ce moment, Daigo contre Justin Wong. Alors, c'est pas une finale, c'est un match pendant le tournoi où Wong incarne Chun-Li qui a une barre quand même super remplie, Daigo qui est avec Ken en très très mauvaise position
dans les cordes, là il est mal,
un petit peu poussé dans ses retranchements, et c'est en plus le round décisif, et Wong qui est à domicile va piffer un petit peu sa super. En fait, on voit qu'ils sont en train de zoner tous les deux, et voilà. Chun-Li lance sa super, et là Daigo parie, donc c'est un mouvement vers l'avant à chaque fois, il faut avoir le timing parfait, parie tous les coups de
Chun-Li. C'est manuel, c'est ça qui est impressionnant.
Chaque coup a été fait séparément. Et en plus, il saute après le 15e pari, un jump mid-air, et c'est là qu'il la contre et qu'il la finit avec sa furie aussi. Du coup, vous le voyez, la salle est debout, la salle est en délire, parce que c'est...
Là, pour le coup, c'est mythique.
C'est incroyable ce qui s'est passé à ce moment-là. Et voilà, c'est toutes ces petites choses qui font de Third Strike un monument vraiment du versus fighting. Plein de nouvelles mécaniques, de nouveaux personnages, et puis comme tu l'as dit, Traz, visuellement c'est encore aujourd'hui
ça n'a pas trop vieilli, hein,
un jeu somptueux, véritablement somptueux. Si vous n'y avez pas joué depuis un moment, ressortez-le, vous allez halluciner devant la beauté des environnements et surtout des animations très détaillées de Third Strike.
La beauté cachée des laits, ouais.
Et Third Strike, enfin Street Fighter 3 peut-être d'une manière générale,
Street Fighter,
renvoyé aussi à Final Fight avec le personnage de... Alors, je sais que dans Final Fight ça s'appelait Andoré, qui est devenu Hugo
le géant,
Hugo par la suite. Donc c'est
qui fait partie de ces personnages qui devaient arriver comme Makoto, je crois, avec Double Impact. Et comme Third Strike a commencé à être développé alors que Double Impact n'était pas encore sorti, il y a des personnages qu'ils ont préféré justement réserver pour la troisième lecture de Street Fighter 3.
Maintenant, ça reste une référence aujourd'hui dans le monde du jeu de baston, Third Strike, qui est utilisé fréquemment dans les tournois internationaux.
Il est tellement technique et tellement beau.
Et ben voilà, justement.
Forcément, ça fait plaisir à tout le monde. Et tu parlais aussi un petit peu de l'univers. En termes de chronologie, c'est le tout dernier épisode de Street Fighter. C'est-à-dire que pour l'instant, la série s'arrête à Third Strike, puisque c'est le dernier épisode dans l'ordre chronologique en fait de la saga.
Donc 4 et 5 se passent avant le 3,
oui,
dans la chronologie. Très bien.
Se passe de commentaires surtout.
Donc voilà, pour toutes ces raisons, et parce qu'il est parfois mal aimé, très injustement.
Exactement.
On avait envie de lui
toi.
Rendre hommage. Ça fait pile poil 20 ans qu'il est arrivé dans les salles d'arcade japonaises. Ouais. Et on voulait lui dire, Third Strike, on t'aime.
Bravo et merci. Parfait, très très bien pour cet anniversaire.
Jamais dans nos cœurs.
Qui réjouira tout le monde. D'ailleurs, on l'a dans la bande là. Il faut qu'on fasse quelques parties tout à l'heure.
Bah vas-y.
Pour voir si je casse la manette.
Faire le pari de. Tu vas faire
de
le...
casser la manette.
Tu vas faire le pari de Daigo.
Exact, et je vais pulvériser tout le monde ou pas. Eh bien, il est temps maintenant de parler de hors-jeu, mon cher Thomas, toujours avec toi.
C'est vrai.
De quoi vas-tu nous parler sur ce hors-jeu ?
Qu'est-ce que j'aurais parlé aujourd'hui ? Eh bien, une fois n'est pas coutume, on va vous parler de manga.
Mangas même.
Puisque une sortie forcément un petit peu événementielle chez Kana nous permet de vous parler d'Hunter x Hunter, le manga mythique à tous les niveaux de Togashi. Togashi, l'auteur qui passe plus de temps à ne pas dessiner qu'à faire l'inverse.
Quelle classe.
Puisque, vous le savez, il y a des graphiques qui sont disponibles sur le net. Depuis le début de sa parution en mars 98, il y a eu plus de semaines sans chapitre d'Hunter x Hunter dans le Weekly Shonen Jump que de semaines où ce dernier était publié. Donc forcément, c'est une série qui a, aujourd'hui, vous l'aurez calculé, du coup, 20 ans.
Ah aussi, c'est presque anniversaire.
Mais donc
aussi.
Attends, il y a pas du tout de, il y a pas du tout de rythme de parution qui est maintenu pour cette série.
Non, en fait, l'auteur est tellement surpuissant, la série a un aura tel que, et ben dorénavant, Togashi fait absolument ce qu'il veut, ce qui fait qu'on a eu parfois un an et demi sans le moindre chapitre.
Donc bah, faut, il se reposait,
dans, il a dans Jump, il faut qu'ils aient des plans de secours quand il y a pas de chapitre de.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, la norme c'est plus qu'il y ait pas de chapitre
oui, voilà,
d'Hunter Hunter.
Mais non, on en a un cette semaine. Oh
ouais,
putain, non, ouais.
Alors, généralement, ils sont balancés par. Par série de 10, ce qui fait un des volumes reliés qui sort justement après.
Ah, c'est pour ça.
Et là, un nouveau volume relié sort en France. Vous l'avez là sur la table, c'est le volume numéro 36, avec en plus une couverture particulière, puisqu'elle fait écho au volume 12 qui vous présentait pour la première fois l'intégralité de la Brigade Fantôme, un groupe d'ennemis un peu récurrent dans le manga. Et bah, comme un nouveau volume sort, mine de rien, c'est un petit peu exceptionnel, hein, ça arrive pas tous les 4 matins non plus. Donc c'était l'occasion de vous en parler, de vous dire aussi tout l'amour qu'on peut avoir. Je sais que Julo se joint à moi pour dire du bien de Togashi, qui est un auteur évidemment d'une fainéantise légendaire. Alors aussi parce qu'il a des problèmes de dos, évidemment on se moque gentiment, hein, mais...
Ah bah ça, à force de dessiner, peut-être.
Mais j'ai l'impression que c'est souvent le cas des meilleurs.
C'est vrai ?
Parce qu'on sait que Toriyama aussi, ça le faisait chier de bosser. Lui, pour le coup, il a subi une plus grosse pression que Togashi.
Mais il y a vraiment un parallèle en fait entre Toriyama et Togashi, parce que ils ont connu tous les deux un énorme succès vraiment en même temps. Toriyama avec Dragon Ball et Togashi avec Yu Yu Hakusho, qui était vraiment au Japon. On l'a pas vu ici, mais l'autre shonen qui cartonnait. Et là où Toriyama a décidé de continuer en cédant à la pression de ses éditeurs, Togashi a fait un gros wad à tout le monde en disant non, j'arrête et je vais tout flinguer. Que ça vous plaise ou non, et il a foutu un petit peu sa série par terre. Tout le monde s'est demandé si ça allait arriver aussi avec Hunter x Hunter. Les récentes interviews de Togashi nous laissent à penser qu'il a la fin en tête et qu'il espère, c'est l'une de ses déclarations, il espère pouvoir dessiner la fin du manga avant de mourir.
La fin du monde aussi.
Donc il faut s'attendre à ce que la série continue à ce rythme un petit peu elliptique pendant encore de très nombreuses années.
J'espère qu'il a noté la fin qu'il a en tête
dans un coffre-fort et que quelqu'un pourra la terminer. En tout cas, voilà, si vous ne connaissez pas la série, c'est peut-être l'occasion de la découvrir et surtout de lire le manga, en fait, puisque Poufy vous a passé un petit peu des images de l'animé. Animé qui a connu deux versions, hein, une première qui est sortie quand le manga avait encore un rythme de parution hebdomadaire assez régulier,
le manga
qui change complètement le ton, parce que Hunter x Hunter, c'est personnellement ça que j'adore avec ce manga. Ça commence comme un shonen neketsu, ça a tous les codes du genre, sauf que à l'intérieur on va très rapidement basculer pour suivre la dépression qui commence à gagner son auteur en fait, et qui part dans des thématiques de plus en plus sombres en gardant un aspect shonen, mais en s'aventurant dans des recoins de son esprit et en traitant des thématiques super dark.
Torturé.
Et en se jouant en plus
comme Sonic le film par exemple, il y a tout un volume
Sonic le
Dark
film.
Sonic, attention il arrive,
quitte à se jouer des lecteurs, puisque Togashi c'est le roi du mangaka qui va te faire miroiter un truc pour finalement ne pas le dessiner et juste t'en parler comme ça au détour d'une phrase. C'est un style assez particulier,
c'est même pas teasing, c'est juste
c'est un style que j'apprécie beaucoup. Et vraiment, si vous voulez découvrir la série, je vous invite à lire le manga, parce que le manga c'est vraiment une plongée dans l'esprit de Togashi, qui est un mangaka extrêmement torturé, là où les différentes versions de l'anime gomment vraiment tout ça. Ça donne quelque chose de léché, mais on perd toute la particularité d'Hunter x Hunter, qui est en plus un des très rares mangas, et ça explique mine de rien le rythme de parution, à être réalisé par son auteur et par son auteur seul. Parce que Togashi a toujours la même logique, c'est-à-dire qu'au début, quand il lance un manga, il a les aides traditionnelles, les 4-5 assistants, encreurs, etc., qu'on attribue aux mangaka qui sont publiés.
Et après, il finit tout seul.
Il finit par tous les foutre dehors et à vouloir tout faire lui-même. Donc forcément, faire tout seul le travail de 4-5 personnes,
ça demande un délai
évidemment du temps. Donc il y a des fois des chapitres qui sont rushés, où on sent qu'il a ancré le crayonné un petit peu vite, mais ça donne aussi une identité visuelle au manga. Donc voilà, le volume 36 vient tout juste de sortir.
Parfait.
Chez Kana. Je vous invite à vous y intéresser. Si vous aimez le manga, que vous êtes passé à côté d'Hunter x Hunter, c'est pas normal et il faut rectifier ça tout de suite.
Right now. Parfait, Toa, merci beaucoup pour ce hors-jeu donc qui clôt ce podcast 498, n'est-ce pas messieurs? Merci
bec.
À tous, Romain, Thomas, Camille et Poufy à la technique, n'est-ce pas? Et merci à Neo Legend derrière pour le Street Fighter First Strike.
Et pour la dérouillée que tu vas prendre dans les minutes qui viennent.
Bah je crois pas moi, mais bon, je dis ça comme ça.
Si si, regarde, t'es déjà en train de te faire défoncer.
Et non,
qu'est-ce
perdu.
Qu'il est beau.
Non, je vais le défoncer, vous inquiétez
tu
pas.
Tu es déjà mort, mais tu ne le sais pas encore.
Exactement. Bien, merci à tous d'avoir suivi ce podcast, n'est-ce pas ? On se retrouve donc la semaine prochaine, comme chaque semaine, pour un nouveau numéro. Et d'ici là, comme on dit toujours, jouez bien, portez-vous bien, et à la semaine prochaine.
Et des gros bisous.
Salut.